Grâce au programme Rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de 2 mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
J'avais perdu beaucoup de choses dans mes dernières années de vie professionnelle là, qui m'avaient un petit peu parabaissé, mais enfin bon, c'était pas... Ouais, usé, et puis j'avais pas eu les codes. Il y a certainement plein de choses que j'ai pas réussi, que j'ai pas fait comme il fallait. C'était pas mon univers. Je m'étais un petit peu battue. Tu sais, c'est comme quand tu pédales dans la semoule, là, tu veux progresser, tu veux atteindre des objectifs, mais en fait, non, t'as pas les codes. Enfin, ça marche pas comme ça. Donc, tant que t'as pas compris, en fait, le truc, tu peux perdre des années parce que t'es pas aligné, en fait. Mais ça, si personne te l'explique et si tu fais pas de développement personnel, tu peux pas le savoir, en fait.
Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteur de Et si je changeais de métier, et la créatrice d'un bilan de compétences Nouvelle Génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Delphine. Delphine a commencé sa carrière dans le commerce international chez Nestlé avant de faire une pause forcée pour cause d'expatriation et l'arrivée surprise de son premier puis de son deuxième enfant. En revenant en France, Delphine ose et se lance dans l'univers politique pour devenir chargée de mission Relations internationales à la mairie de Bordeaux. S'ensuit une profonde perte de sens, son corps lui parle de plus en plus fort. Elle découvre alors les bienfaits du développement personnel et se dit « Pourquoi ne pas aider nos jeunes à mieux se connaître ?» C'est alors qu'elle décide de lancer Columbus pour révéler leur curiosité, apprendre à se connaître et préparer leur choix d'orientation à travers des expériences d'immersion et des rencontres inspirantes. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Delphine Lacaille. Bonjour Delphine.
Bonjour Charlotte.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît ?
Alors écoute, j'ai choisi mon passeport parce qu'en fait, je n'avais pas vraiment d'autres objets comme ça. J'ai pas vraiment un objet qui me caractérise. Mais il fallait trouver quelque chose. Et finalement, mon passeport, c'est ce qui m'a permis de vivre un peu mes rêves, de partir à l'étranger. Ça me rappelle tous mes voyages, mes expériences. Et puis c'est un petit peu aussi. Il est toujours prêt. Voilà, il est toujours prêt pour partir à l'aventure.
Parti. Est-ce que tu pourrais nous parler de là où tu as grandi ?
Alors j'ai grandi à Aix-en-Provence parce que mes parents se sont installés là-bas. En fait, mes parents sont plutôt du sud-ouest. Mon père est landais et toute la famille de mon père est vraiment très terroir des Landes. Et maman était une famille d'immigrés espagnols qui était arrivée dans le sud-ouest aussi, du côté de Bordeaux. Et quand ils se sont rencontrés, ils se sont installés à Aix. Donc moi, je suis née à Aix, j'ai grandi à Aix. Et je suis montée à Paris, j'avais 10 ans. Mon père a été muté. Il a eu une belle promotion.
Il faisait quoi comme travail ?
Bah, il était directeur commercial chez L'Oréal. Mon père, en fait, c'est un autodidacte. Mes parents, ils ont arrêté l'école assez jeune. Ils ont commencé à travailler jeunes et il a gravi les échelons en fait comme c'était encore possible dans les années 80 chez L'Oréal notamment et donc il a été muté à Paris pour prendre la direction commerciale. C'était un peu le rêve de sa vie. Il en reparle toujours avec toujours de l'émotion. Puis j'ai certainement grandi aussi avec ces images là et voilà. Et puis ensuite, région parisienne, on était dans les Yvelines, à Maison Lafitte.
T'avais quel âge quand vous avez déménagé ?
J'avais 10 ans. Et donc, j'ai fait après tout le collège.
Et comment tu l'as vécu, le fait de quitter le soleil et les copines et les copains pour aller...
J'ai pas de souvenirs marquants. Les seuls souvenirs dont je me... qui m'ont marqué, c'est mon accent, parce que je pense que j'avais un accent à prononcer, et donc klaxon, on disait pas, alors qu'à Paris on dit klaxon, la fameuse poche, voilà. Donc en fait j'ai que des souvenirs, des expressions roses, enfin voilà, je pense que j'avais un accent d'une petite fille de 10 ans. Et mais on s'est très très vite habitué. Ça a été beaucoup plus compliqué pour maman. Elle, je sais qu'elle a été très malheureuse les deux premières années à Paris. On s'en rendait pas compte. Et voilà, non, on s'y est fait assez vite. Et puis c'était Paris. Maison Lafitte, c'est pas Paris en fait.
Oui, t'es pas en plein centre-ville.
Ah bah Maison Lafitte, c'est vraiment une banlieue hyper hyper agréable à Paris. Et moi, j'ai commencé vraiment à aller à Paris toute seule. Je devais avoir 17 ans parce que mes parents étaient hyper protecteurs. Et j'avais pas du tout le droit d'aller à Paris toute seule. Ils m'accompagnaient partout en voiture. Donc
hyper protégée.
Ouais.
Et quand tu étais une petite fille, quel type de petite fille t'étais ?
En fait, je sais pas trop. Une fois que j'ai commencé à faire du développement personnel, je me suis toujours demandé pourquoi je sais pas vraiment me remettre en. J'imagine qu'en fait, j'étais la même qu'aujourd'hui, mais en version petite fille. Mais j'ai du mal à savoir si j'ai beaucoup changé, comment, pourquoi. Parce qu'en fait justement j'avais tellement pas ces outils de développement personnel, de conscience, alors c'est sûr que j'ai toujours été dans ma bulle, hein. Moi j'étais dans ma bulle dans l'enfance, l'adolescence et même jusqu'à très tard en fait, hein. J'ai été très protégée, donc un petit peu comme ça dans ma bulle. Je sais que j'ai commencé à être un peu plus rebelle, et donc à être affirmée, mais de l'adolescence plutôt tardive. Mais voilà, je pense que mes centres d'intérêt, moi, c'était la danse. J'étais très fille, hein, la danse, les fringues, les histoires avec mes copines et les histoires d'amour. Voilà, c'était très simple.
Et c'était quoi tes rêves de petite fille?
Eh ben mes rêves de petite fille c'était un peu ça, la danse, danseuse ou mannequin ou actrice. Je voyais déjà le monde. Enfin ça c'est arrivé assez vite parce que mes parents voyageaient pas mal. Enfin ils voyageaient au moins une fois par an grâce au boulot, au travail de mon père notamment. Et puis c'est vrai que nous on voyageait jamais. Enfin ils partaient vraiment tous les deux. Ah, il partait, mais il se faisait des voyages, mais incroyables. Donc j'ai rêvé de voyages assez jeunes. Mais c'est tout. J'avais rien d'autre. Et puis je m'en donnais pas vraiment les moyens. Je rêvais dans ma chambre avec mes posters, mais c'est tout quoi.
Ouais. Et ta maman, elle travaillait ?
Et maman, elle a travaillé très jeune. Elle est rentrée à la sécurité sociale. Grâce à ma grand-mère, parce que ma grand-mère travaillait aussi. Elle était déjà rentrée à la Sécu, mais donc finalement, quand l'assurance maladie a été créée, ma grand-mère y est rentrée, puis ensuite ma mère y est rentrée, et elle y a fait toute sa vie, qui lui a permis de beaucoup s'occuper de ses deux filles. J'ai une sœur, et donc c'est vrai que maman était très présente. Elle était là tous les soirs, les mercredis, les week-ends, toutes les vacances. Voilà, donc elle était pas, on parlait pas vraiment boulot, enfin voilà, elle a pas, j'ai pas un souvenir de son côté professionnel, mais tout le côté effectivement affectif, et j'ai compris quand j'ai commencé à faire du développement personnel à quel point c'était les fondations en fait. Et voilà, et quand je lui dis tout ça, et maintenant que j'ai un petit peu mis le nez et j'ai beaucoup plus de connaissances sur le développement personnel et que je lui explique tout ça, je sais à quel point c'est la base et c'est finalement ce qu'il y a de plus important.
C'est sûr. Et du coup, au moment de faire le choix de tes études, ça s'est passé comment pour toi ?
Alors moi, tout est venu un petit peu par hasard parce que j'étais pas très bonne élève. Enfin, j'étais pas bonne élève parce que je travaillais pas plus que ça, ça m'intéressait pas plus que ça. Donc finalement, et puis je pense qu'on avait moins la pression. En tout cas, mes parents il fallait juste que je passe dans l'étape d'après, que j'ai mon bac. Mais ils mettaient pas, j'avais pas une grosse pression de filière sélective. J'avais fait le choix d'aller dans un lycée public. Donc j'étais un petit peu, bah voilà, avec mes copains.
Pareil. Quand tu dis que t'as fait le choix, c'est-à-dire que tes parents t'ont laissé le choix ?
Oui, parce que en fait moi tous mes copains allaient au lycée public en plus qui était à Sartrouville. Donc à l'époque on passait de Maison Lafitte à Sartrouville, c'était quand même un peu et mes parents voulaient que j'aille à Saint-Germain-en-Laye qui était
beaucoup plus chic,
beaucoup plus rassurant. Mais voilà, mais moi tous mes copains allaient là-bas et j'ai pas lâché là, par contre et donc j'ai été à Sartrouville. Mais du coup, c'était beaucoup plus effectivement populaire, public, et puis on n'avait pas les téléphones, hein, donc comme je dis, on jouait aux cartes. Quand on n'avait pas cours, on pouvait passer des journées entières à jouer au baby-foot, au flipper et au tarot. Donc c'est des super souvenirs de lycée, mais côté scolaire, j'ai pas de souvenirs d'une ambition, de sélection, d'une motivation en particulier. Donc j'ai eu mon bac au rattrapage et un petit peu par hasard. Et donc j'ai été en fac. La seule chose moi qui m'intéressait, c'était l'anglais et l'espagnol, parce que j'avais compris que c'était la clé pour voyager. Donc c'était la seule motivation que j'avais.
Donc t'avais pas d'ambition professionnelle, mais tu t'es dit ça me servira dans ma vie.
Disons que je savais pas encore si c'était professionnel, personnel, mais comme c'est la seule chose qui me plaisait, ce côté voyage et international, et je savais que c'était la clé, c'était déjà les langues. Et comme ça me plaisait, j'ai misé là-dessus, et donc j'ai été en fac, j'ai été faire une LEA. Parce que à l'époque on n'avait pas Parcoursup, donc on s'inscrivait à la fac et on avait automatiquement une place dans la fac à côté de chez nous. Donc moi j'avais ma place à Nanterre comme tous les jeunes à l'époque. Donc j'ai été à Nanterre et là je me suis retrouvée en LEA avec, je pense que je devais avoir 10 ou 12 heures de cours. Et c'était pas du tout adapté à mon caractère et à mon état d'esprit d'une jeune fille de 17 ans. Et là, mon père m'a dit, écoute, t'es bien gentille, mais la vie, c'est pas ça. Donc, si t'as que 10 heures de cours, tu vas travailler. Tu vas travailler pour arriver à 30 heures. Et donc, j'ai commencé tous les petits boulots. Et rapidement, LEA, ça me plaisait pas du tout. Ça correspondait pas non plus à mon caractère. Et donc j'ai rapidement arrêté la fac et je n'ai fait que travailler pendant toute une année. J'ai fait que des petits boulots et j'ai.
T'as fait quoi comme petit boulot ?
J'ai commencé par McDo de la Défense, 17 ans. Ensuite j'ai fait caissière casino. Ensuite j'étais hôtesse. Donc là j'ai fait plein de missions. Moi j'ai fait toutes les missions. Des vidéos, des télés, de la figuration, les salons. J'aimais beaucoup être hôtesse. Après, j'étais vendeuse dans une boutique de vêtements et ça m'a plu aussi. Donc, j'ai été vendeuse pendant quelques mois chez Brucefield. J'aimais bien. Je tournais dans les magasins, voilà. Enfin, le terrain et puis finalement ça m'allait bien. Je pense que c'est ça qui a développé mes compétences sur le terrain. Et puis comme on dit, toujours la vérité sur le terrain. Moi ça m'a fait grandir d'un coup. Je me suis rendu compte que j'étais pas mal en fait. J'avais des compétences et c'est ce qui m'a motivée pour aller chercher mon inscription en BTS de commerce international. Et c'est vraiment là que j'ai commencé, mes études, puisque mon BTS de commerce international m'a plu. J'ai enfin eu de bons résultats. J'avais peut-être aussi la maturité qui arrivait, qui était au rendez-vous. Et puis, premier stage à l'étranger, 3 mois à Barcelone. J'ai mon permis 2 mois avant. Je pars avec ma petite voiture. La vraie vie qui démarre à 18 ans, quoi.
Et quand tu te fais cette année de transition, entre guillemets, avec tous ces petits boulots, comment ils réagissent tes parents ?
Ils me laissent assez tranquille, entre guillemets, parce que du coup, on a conclu un peu un pacte. Enfin, voilà, le contrat est rempli. J'ai pas de souvenir en particulier. C'était OK. Enfin, je travaillais. Enfin, tout le monde travaillait et en même temps, du coup, je pense qu'ils m'ont accompagnée pour que ce soit juste une transition pour trouver mon BTS. Voilà. Donc,
Donc là, tu fais ton BTS. Là, est-ce que tu commences à avoir des idées de métier que tu aimerais faire après?
Non. Non, ça reste l'international. Et puis bon, après un BTS de commerce international, on rentre quand même assez vite dans le vif du sujet. Donc, c'est très concret. Hein, c'est un bac plus 2. Donc, les enseignants, la majorité, c'est des professionnels. Je me souviens qu'on était en stage tous les 2 mois. Donc, j'ai fait un stage à la COFAS pour découvrir les assurances. J'ai fait un stage dans une banque au service international pour découvrir le paiement à l'international, les techniques, etc. J'ai fait un stage un peu, je me souviens aussi, technique là, sur tout ce qui est ce qu'on appelle les incoterms. Enfin, c'est vraiment le côté très pratique du commerce international, des échanges de marchandises, etc. Donc, ça devient assez clair sur les différents métiers qui sont liés au BTS de commerce international. Mais j'ai pas d'idée précise. Après, je vois bien que je suis plutôt à l'aise dans tout ce qui est plutôt commercial et marketing assez vite, en fait. Moi, je suis pas une fille de la logistique, c'était pas mon truc. Je me souviens, je galérais pour remplir un conteneur. Enfin, pour moi, les cours de logistique, c'était l'enfer. J'étais pas Tetris, hein. Il fallait faire remplir les palettes, les trucs. Non, c'était pas mon truc. Donc, assez vite, je me suis rendu compte, avec mes petits boulots et avec mon BTS, que j'étais plus à l'aise dans le domaine commercial et marketing.
Et du coup, à la fin de ce BTS, tu fais quoi?
Et ben, à la fin de ce BTS, comme j'ai de bons résultats, je me dis que c'est un tremplin, et donc je décide d'aller chercher une école de commerce, du coup en bac plus 4 ou bac plus 5, vraiment spécialisée à l'export. Et à ce moment-là, ben, y en a deux. Il y a l'école supérieure du commerce extérieur et il y a je me souviens plus comment elle s'appelait, mais c'était celle de l'ESSEC. L'ESSEC avait une autre école qui était vraiment spécialiste du commerce.
L'EPSI, non, je sais plus.
L'EPSI.
Ouais, je crois que c'était l'EPSI. Ouais.
C'était celle-là. Et moi, je voulais bien sûr celle de l'ESSEC. Et là, au concours, c'était un concours, j'ai 4 sur 20 en espagnol. Et 4 sur 20 en espagnol, je suis d'origine espagnole, on a toujours parlé espagnol à la maison, on passe tous nos étés en Espagne depuis que j'ai 12 ans, j'ai tous mes potes là-bas, j'avais fait un stage de 3 mois à Barcelone, enfin, autant te dire que je me considérais pratiquement comme bilingue. Et donc là, c'est la grosse claque parce que j'ai même pas l'oral et en fait, c'est une note qui est disqualifiante. Enfin, j'ai même pas l'oral de ce concours. La fin de ma vie, j'étais au bout du rouleau. Et maman, dans ma famille, on a toujours relativisé, que ce soit ma grand-mère, maman, moi j'ai toujours grandi dans des messages en me disant, écoute, c'est pas grave, fais-toi confiance. Enfin, si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, c'est que ça devait pas se faire. Il y a autre chose qui t'attend, etc. Bon, mais c'est vrai, quand on vit un échec comme ça, on se dit, ouais, bah, l'autre chose qui m'attend, je sais pas quoi, bah, vraiment. Je suis partie là-dedans et puis j'ai eu le SCE et donc je suis partie faire l'école le SCE où finalement j'ai rencontré mes meilleurs amis et mon mari. Donc finalement effectivement, il faut faire. C'était mon destin.
Génial. Donc tu fais le SCE et après le SCE, qu'est-ce qui se passe pour toi?
Bah écoute, le SCE c'est là où je fais encore pas mal de stages, où je continue à grandir, où je fais aussi je continue à travailler en dehors puisque je rentre à ce moment-là, je rentre au Sephora des Champs-Élysées. Dimension internationale, j'adorais, j'avais tous les clients du monde entier. Et puis les heures d'ouverture, puisque le Sephora des Champs-Élysées venait d'ouvrir, et je travaillais jusqu'à 1h du mat les week-ends, les samedis, les dimanches, donc ça me permettait quand même d'avoir en plus un petit peu d'argent et de parler anglais et espagnol à chaque fois, donc j'adorais. Mais pareil, j'ai pas d'idée précise encore. Moi, je me laisse vivre. Hein. C'est quand même vraiment nos meilleures années. L'école de commerce, on pensait plus à nos soirées.
C'est clair.
Où est-ce qu'on allait faire notre Erasmus? Donc là, on arrive à décrocher. Puis moi, je rencontre mon mari à l'école. Donc on se concentre. On était très court terme. Hein, donc le court terme, c'est OK, on a 6 mois de stage à faire. Il faut qu'on trouve le stage dans la même ville. On est parti à Londres. On a passé 6 mois à Londres. Et après, on se dit OK, on veut faire un Erasmus. On veut partir en Espagne. On part en Espagne. Moi, j'avais eu Valence. Lui, il avait eu Madrid. Donc la catastrophe, voilà. Donc on était très court terme, hein. On avait des objectifs. Et puis à ce moment-là, à la fin, bah lui, il y avait encore l'armée, et donc lui, il décroche, il doit faire son CSN. Et bah là, on s'y met un peu tous les deux, puisqu'on avait déjà dans l'idée que j'allais le suivre pendant ces 18 mois à l'étranger. Et il décroche un poste à Boston, aux États-Unis. Et donc, bah, je prépare aussi moi mes entretiens pour essayer de décrocher un boulot qui n'était pas dans un cadre. Enfin, nous les filles à l'époque, on pouvait pas faire, on n'avait pas ce type de contrat, quoi. Donc, il fallait que je trouve un vrai boulot en direct. Et j'ai galéré. C'était hyper hyper dur. Donc, ça a été très compliqué. J'ai vécu aussi une super opportunité que j'ai pas eue, puisque en fait à Boston il y avait le siège de Balance. Je raconte toujours cette histoire à tous les jeunes que j'accompagne, et puis voilà, en général, le siège de New Balance. Donc on est dans les années 2000. New Balance, c'est c'est la marque qui cartonne, dont on rêve. Et le poste, c'était coordination des filiales européennes pour le siège donc de New Balance qui se trouve à Boston. C'est le job idéal quand t'as 20 ans, 21 ans et que tu sors d'une école de commerce. Et sur le papier, bah bien sûr, j'ai tout. Je suis jeune, je suis trilingue, donc je
européenne.
Donc je pense que, je veux dire, ce job est pour moi. Je passe les différentes étapes jusqu'à la finale. On n'est plus que deux. Le dernier entretien, la RH me fait visiter les locaux, me montre le box, puisqu'ils étaient déjà à l'époque, eux ils étaient déjà en open space, tout le monde était en basket, ambiance start-up comme on voit aujourd'hui, mais bon, à l'époque ça n'existait pas, c'était pas du tout, ça avait rien à voir moi avec tous les stages que j'avais fait avant dans mon parcours. Et je me souviendrai toujours, dans l'ascenseur, elle me dit « ok, faut que je vous dise la vérité, enfin voilà, vous êtes deux, l'autre personne un très bon profil aussi, c'est un Américain, donc voilà, moi j'aimerais vraiment vous donner votre chance, mais voilà, ça risque, voilà, je peux pas vous dire. » Et là, je croise les doigts, et en fait, je n'ai pas le job. Oh là là, au bout de ma vie. Donc là, je rentre en France, parce que vraiment, j'étais effondrée, j'étais dégoûtée. Je rentre en France, je me ressource avec les copains, la famille, etc. Et je repars à l'attaque. Je retourne aux États-Unis avec tous mes CV, ma motivation, etc. Et je finis par décrocher enfin un poste qui n'était pas du tout mon poste de rêve, mais qui m'a permis de vivre 18 mois aux États-Unis avec Augustin. Voilà, et de vivre notre aventure américaine qui était géniale.
Ouais. Donc là, c'était un poste, si je vois sur LinkedIn, de comptabilité et de gestion de clients, donc loin de tout ce dont tu avais envie et sur le pourquoi tu étais faite.
Exactement. C'était une petite structure qui m'a finalement appris la rigueur, les chiffres, mais j'en étais malade. C'est-à-dire que j'avais une chef, enfin la fondatrice de cette boîte était experte comptable, hein, et comme les experts comptables, je me souviendrai toujours. Elle me dit non, Delphine, c'est pas possible. En fait, il faut que ce soit juste. Donc tu te débrouilles. Hein. Si tu dois y passer 10 heures, tu y passeras 10 heures, mais tu me rends des résultats juste à la virgule près. Oh, moi, je suis pas du tout comme ça. Je suis jamais à la virgule près. Je suis pas du tout dans les détails. Non, c'était compliqué. C'était compliqué, mais voilà. Mais encore une fois, ma vie aux États-Unis, c'était nos soirées, nos week-ends, dès qu'on pouvait, les jours fériés, dès qu'on pouvait partir, on partait. On a quand même eu, en 18 mois, on a réussi à faire, On a été à Québec, on allait à New York, on a été à Chicago, on a fait la Californie, on a pris 15 jours, on a fait toute la Californie, Grand Canyon, Las Vegas, etc. On a fait la Floride. Enfin, honnêtement, pour moi, aux États-Unis, c'était ça, quoi. C'était pas le poste que j'avais. Il m'a juste permis d'avoir un salaire et d'avoir un visa. Et on est rentré en France gonflé à bloc par le rêve américain et par l'esprit, le leadership. On a pris tout le bon. On a pris tout le bon des États-Unis.
Top. Donc là, vous rentrez en France parce que donc ton chéri finit son service militaire.
Ouais, c'est la fin de nos contrats. Hein. C'était les G1. C'est la fin de nos contrats de 18 mois chacun et à peu près. Et donc, on rentre à Paris puisque naturellement c'est là qu'on était. Et grâce à ces 18 mois aux États-Unis, on trouve un job en un mois. Enfin, franchement, ça s'est fait. Moi, j'ai postulé. J'ai eu un poste. C'était de l'intérim, mais c'était chargé de mission zone export pour Nestlé Waters, donc les eaux minérales de Nestlé, Perrier, Vittel, Contrex, direction internationale. Enfin voilà, ça correspondait exactement à la suite logique. Et j'ai eu le poste tout de suite, donc j'ai démarré. J'ai démarré. Et là, j'étais un petit peu plus dans le cœur de métier. Lié à mes études Nestlé, hein, donc la grosse boîte, le grand groupe, les marques internationales, les process, enfin voilà, la vraie formation qui correspondait à ce poste de chef de zone export, en fait, qui était la suite logique.
Ouais. Et là, chose assez exceptionnelle, je crois que je l'ai rarement vue sur un profil sur LinkedIn, tu mets engagement familial, expatriation au Chili et gestion de la famille. Ça, c'est quelque chose que tu as mis tout de suite sur ton profil LinkedIn ou tu as mis un peu de temps à l'ajouter ?
Oh, je l'ai mis plus tard. Je l'ai mis quand j'ai retravaillé mon parcours, quand j'ai fait du développement personnel, en fait, quand j'ai réfléchi à tout ça, à mettre des mots sur chaque expérience, à mettre des émotions, à mettre du sens, parce que moi vraiment j'ai découvert le développement personnel, il y a 5 ans quand je me suis posée, mais avant. Tout ce que je faisais, je le faisais au feeling, à l'instinct, à l'opportunité, sans mettre de mots, sans mettre de choix, enfin, en n'ayant pas l'impression que je faisais vraiment un choix. C'était comme ça, j'y allais. Cette pause, elle s'est faite un petit peu par hasard. Donc, pour répondre à ta question, non, j'ai vraiment écrit ça en conscience, en ayant réfléchi à mon parcours. Mais sinon, au moment où je le vis, l'Amérique latine, c'était un rêve de couple qu'on avait. Mon mari, à ce moment-là, lui s'était lancé dans les, il s'était lancé dans les nouvelles technologies quand on était en école de commerce et puis après son CSN là aux États-Unis, et puis en fait ça lui plaisait pas du tout. Lui, son rêve c'était le vin, c'était de rentrer dans la filière viticole, le vin, et donc voilà, il est parti à l'aventure au Chili, et on avait quand même ce rêve commun, sauf que moi j'avais un super job chez Nestlé que je pouvais pas quitter comme ça, donc j'ai travaillé mon expatriation. Et ça s'est fait en plusieurs étapes. J'ai fait plusieurs allers-retours au Chili, et j'ai rencontré Nestlé là-bas qui me prenait, enfin qui faisait la transition. J'avais rencontré L'Oréal, j'avais rencontré Sodexo, j'avais rencontré quelques boîtes pour essayer de décrocher un poste en contrat local, parce que l'expatriation ça commençait déjà à l'époque, c'était déjà de plus en plus compliqué. Donc même Nestlé ne me faisait pas du tout un contrat d'expat. Hein. Il me disait vous démissionnez de la France et puis on vous embauche en local au Chili. Mais bon, ça m'allait. Et puis finalement, Augustin, il voyageait beaucoup. Et moi, je m'occupais du lancement de Contrex aux États-Unis pour Nestlé Waters. Et quand je leur annonce que finalement je les quitte pour partir au Chili, ils me disent écoute, ce qu'on te propose du coup, c'est est-ce que tu peux finir le lancement de Contrex aux États-Unis. Du coup, comme on sait que tu restes pas en France et qu'on a besoin de quelqu'un là-bas, tu pourrais partir aux États-Unis, faire le lancement sur place. Et puis, dès qu'on a fini le lancement, bah voilà, on gère le départ et tu pars au Chili. Et donc, je suis partie dans la filiale à New York pendant 3 mois pour gérer le lancement de Contrex aux États-Unis. C'était la période la plus incroyable de ma vie professionnelle, telle qu'on l'imagine, telle qu'on se la rêve, etc., etc. Et j'ai croisé Augustin un week-end à Los Angeles et je suis tombée enceinte. Donc là, j'ai eu un vrai clin d'œil en disant bon bah.
J'aime bien, j'ai croisé genre oh tiens t'es où là.
Ah non mais on s'est croisé parce que c'est un week-end hein.
D'accord. Enfin, ouais.
Moi je savais que j'avais un, j'avais un, on lançait en fait le lancement de Contrex dans plusieurs villes aux États-Unis et du coup bah on était quand même connectés mais à distance hein. Et donc je lui dis bah écoute moi je vais à Los Angeles telle date. Il me dit ah, bah écoute je me débrouille pour faire un pour faire un testing là-bas et on a passé le week-end ensemble et je suis tombée enceinte ce week-end-là quoi. Donc on a quand même eu un vrai coup de pouce du destin à la fois sur notre histoire donc sur ma vie personnelle et professionnelle puisque ça m'engageait aussi de dire bon bah voilà là je parce que c'était compliqué quand même de lâcher ce job sachant que Contrex aux États-Unis me proposait de rester et de m'occuper du coup de la marque Contrex aux États-Unis dans la filiale à New York. Donc c'est pas non plus à 25 ans 26 ans 27 ans je sais plus enfin bref. Donc le choix est fait et je me retrouve au Chili mais je me retrouve en fait enceinte. Donc c'est pour ça que ça s'est assez vite transformé en pause. Pour avoir un enfant et puis ensuite décider de rentrer en France, s'installer à Bordeaux. Au moment du déménagement et de l'arrivée à Bordeaux, je me retrouve enceinte de la deuxième. Donc deuxième cadeau de la vie, j'appelle pas ça des accidents. Moi pour moi c'est des cadeaux, mais c'était pas vraiment prévu non plus.
Parce que du coup, ouais, tu te retrouves à plus travailler.
Je suis complètement sous l'eau de mes bébés, de mes grossesses, de mes déménagements. Et puis moi, j'étais pas formatée mère au foyer. Mais alors pas du tout.
T'avais toujours travaillé en plus.
Ah, j'ai toujours travaillé. J'étais un peu. Alors, quand on rigole avec mes copines, parce que je me la jouais, mais on était businesswoman, quoi. J'étais pas, à aucun moment, je pouvais imaginer que j'allais faire une, enfin, j'allais ne pas travailler pour m'occuper de mes enfants. Et encore une fois, comme j'avais pas du tout de, j'avais jamais mis le petit doigt dans le développement personnel, j'avais aucune conscience et aucune connaissance de tout ça. Je l'ai un peu subi, cette période-là. Je l'ai vécu du mieux que j'ai pu et je pense que je me suis bien occupée de mes enfants. Mais alors moi, pas du tout. J'ai des souvenirs de traîner en pyjama toute la journée. Le soir, Augustin rentrait, j'ai fondé en larmes en disant « mais j'ai rien fait, ma journée elle est nulle ». Ah non, c'était… donc c'est un vrai engagement parce que je…
Ouais, parce que quand on n'est pas… Moi, j'ai fait que mes congés mat, mais clairement, j'avais qu'une hâte, c'était de retourner travailler. Et alors clairement, t'as des femmes qui s'épanouissent énormément dans le fait d'être à la maison avec leurs enfants, mais quand c'est pas quelque chose qui t'épanouit et que t'as besoin justement d'aller chercher de l'épanouissement ailleurs, tu te sens en effet à la fin de la journée, tu dis mais j'ai rien fait, alors que tu dis bon bah non, enfin c'est pas que j'ai rien fait, mais en termes d'estime de soi, c'est pas facile.
Ah bah c'est ça, mais surtout quand tu ne sais pas ce que c'est l'estime de toi, enfin l'estime de soi, tu ne sais pas ce que c'est la confiance, tu ne sais pas ce que c'est la maternité, tu ne sais pas à quel point ces années-là et ces moments-là, ils font partie des fondations de l'être, de la construction de chaque être humain, enfin tout ça. Pour ça que je te dis, je pense que je l'ai bien, je l'ai fait du mieux que j'ai pu, mais je l'ai pas fait en conscience avec tous ces outils de développement personnel que j'ai découvert bien après. Mais Mais voilà, mais donc c'est une pause, c'était voilà, c'est une pause qui est passée finalement assez vite, parce que au final, comme je dis, en fait ça passe hyper vite, on est hyper occupé, j'avais deux enfants et puis en même temps bien sûr une maison à gérer, on a déménagé, on s'est marié, accessoirement on n'était pas marié. Enfin bref, toutes ces choses et puis dès que j'en avais l'opportunité quand même aussi je partais en week-end, en voyage avec Augustin, parce que ça m'a jamais quitté. Toujours le passeport était prêt, donc il fallait aussi gérer l'organisation des enfants, où est-ce qu'on les casait. Donc c'est ma pause, et c'est ma pause qui me dit aussi qu'est-ce que je fais après de ma vie professionnelle. Et c'est mon premier vrai changement. C'est mon premier vrai changement parce que je me vois pas rester à l'export. Je vois bien que Augustin, lui, dans le vin, il voyage beaucoup, enfin tout le temps. Et à Bordeaux, j'étudie le marché. J'étudie le marché local lié à l'international. À part le vin ou des PME exportatrices, mais où il faut une disponibilité de dingue que je n'avais pas. Il n'y a pas grand-chose. Et à ce moment-là, alors j'avais eu un premier déclic politique justement pendant mes expatriations, où finalement le fait de ne plus être en France, on s'intéressait énormément à l'actualité, à la politique, à ce qui se passait, etc. Et puis on avait eu quand même l'électrochoc puisque le deuxième tour de la campagne, enfin de Chirac Le Pen, on était aux États-Unis. Et on est rentré en France exprès pour voter au deuxième tour. Donc j'ai eu un engagement en fait politique assez fort qui a émergé à ce moment-là. Et puis finalement à Bordeaux, il se trouve que j'ai rencontré des personnes qui étaient dans cet environnement-là, qui travaillaient au cabinet d'Alain Juppé, et j'ai mis le petit doigt dans cet univers et ça m'a plu. Et je me suis dit, c'est la première fois que je me dis, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Parce que, alors vraiment, sur le papier, je n'ai rien. Je n'ai pas les études, je n'ai pas le réseau, je n'ai pas les parents, je n'ai pas d'histoire, je n'ai rien. Mais juste la motivation. La motivation, le déclic, et de me dire, je suis sûre que les relations internationales de la ville de Bordeaux ont besoin de quelqu'un comme moi pour développer les relations, les plans d'action, etc. Je me fais tout un film de ce poste et je me bats pour le décrocher, et je finis par le décrocher. Et donc je rentre à la mairie de Bordeaux, au cabinet, aux relations internationales, pour m'occuper donc des coopérations internationales de la ville.
Et au final, est-ce que le poste était aussi beau que ce que tu avais imaginé?
Alors beau, je sais pas ce que c'est qu'un poste beau, pas beau. Disons que j'ai pris tout le bon, et le bon, c'était de découvrir tout ce que je ne connaissais pas. Moi, je suis une grande curieuse, et donc ce qui me plaît, c'est apprendre et être un petit peu dans les coulisses. Et alors là, vraiment, il n'y a pas mieux que rentrer au cabinet d'une mairie et dans un système politique, puisque je fais les deux en parallèle. Hein. Je m'engage à l'UMP à l'époque avec Juppé et au cabinet au niveau des relations internationales, qui là est plus mon métier. Donc, ce qui est passionnant, c'est de découvrir tout cet univers. Parce que moi, j'ai pas fait Sciences Po, je ne savais rien de l'univers, des ambassades, de la solidarité, des ONG, des assos, des appels à projets, des conventions, tout l'univers à la fois administratif, tous les process administratifs, et l'univers international, des relations internationales, la diplomatie, les délégations, le protocole. Première fois qu'on me dit protocole, ah non, parce que c'est protocole. Donc j'apprends, je me régale, et puis je mets aussi moi, ma façon de travailler dans le job. Donc là, par contre, je suis un peu un ovni, puisque je parle juste en, comme moi, je sais faire, hein, objectif. Il n'y a pas vraiment d'objectif. Bon, moi, je vais en mettre. Timing. pas vraiment de timing, ben c'est pas grave, moi j'ai besoin d'un timing, hein, je vais me mettre un timing, je vais me faire un rétro-planning, on va mettre un plan
d'action. La vie d'entreprise, quoi. Ouais.
Voilà. Et donc je me régale parce que j'ai des super missions, je me crée des super plans d'action. Moi j'avais la Méditerranée et l'Europe, et après j'ai laissé l'Europe et j'ai pris la Chine. Donc ça me permet de découvrir la Chine, ça me permet de travailler mes coopérations. Je me suis régalée puisque j'avais Algérie, Maroc, Israël et Palestine. Donc je mets quand même, je rentre au cœur de ces sujets parce que c'est quand même la géopolitique. Surtout quand on travaille pour quelqu'un comme Alain Juppé, hein, les notes, c'est pas des notes. Enfin voilà, il y avait du niveau, donc c'était quand même j'ai beaucoup travaillé mes notes et le contenu des programmes pour que ce soit intéressant, que ce soit utile, que ça ait du sens. Donc je me suis j'ai beaucoup appris et je me suis régalée dans le poste. Mais bon, j'ai fait le tour, hein, c'est toujours pareil. Et j'avais envie de retrouver la dimension économique. Donc, j'ai pas eu ce que je voulais. Donc finalement, au bout des deux contrats, puisque c'est des contrats de contractuels à l'époque, c'est des contrats de 3 ans, c'est des CDD de 3 ans. Et au bout des 2 CDD, j'ai pas eu de renouvellement. J'ai pas eu ce que je voulais, et donc j'ai quitté tout ce monde-là pour repartir.
T'es parti où ?
Privé. Alors, au début, je voulais partir dans le tourisme, et j'ai eu une opportunité. J'avais décroché une opportunité pour rejoindre une jolie PME sur le papier, qui était tout me plaisait. Je devais investir ensuite, puisqu'il y avait une des actionnaires qui voulait vendre ses parts. Donc là, je m'étais vraiment remis en mode business. Du coup, j'investis, je rachète les parts, etc. Et en fait, ça s'est hyper mal passé. Je me suis pas du tout entendue avec les autres actionnaires. J'étais pas du tout alignée avec les valeurs. C'était hyper tradi. Moi, j'avais envie de faire que de l'innovation, faire des nouveaux trucs. C'était hyper tradi. Tout ce que je proposais, c'était « Ah non, mais ça va pas être possible. Ah non, mais ça marche pas. » Ah non, enfin tout ce qui n'est pas moi. Et donc j'ai fait que 6 mois, mais ça a été les 6 mois les plus durs. Je pleurais tout le temps, j'étais malheureuse comme tout. Et à ce moment-là, Virginie Calmels, qui était arrivée à Bordeaux, qui s'était lancée en politique, elle au même moment. Enfin, on était sur des timings. Et en fait, elle était rentrée à la mairie et elle s'était lancée en politique comme un peu bras droit de Juppé au moment où moi je quittais, j'avais quitté la politique. Mais on s'était rencontrés, on avait été présentés par des amis communs et on s'était hyper bien entendus. Enfin, on était sur la même longueur d'onde, humainement on fonctionnait un peu pareil. Bon, j'avais pas du tout le même parcours, mais en tout cas ça fonctionnait très bien. Et elle m'appelle à ce moment-là et elle me dit Delphine, j'ai pas pu te recruter à la mairie, parce qu'elle voulait me recruter mais ça ne s'était pas fait. Il y a beaucoup de gens qui ne voulait surtout pas qu'on travaille ensemble déjà à ce moment-là. Mais écoute, là, je viens d'être investie pour faire la campagne des régionales. Et donc, je monte mon équipe et je voudrais que tu sois mon attachée de presse. Ah bon, attachée de presse, mais enfin moi je sais pas, enfin t'es sûre? Ah oh, mais oui, t'inquiète pas, de toute façon, tu sais. Moi, j'ai besoin d'une personne de confiance. J'ai besoin d'une personne qui comprend vite, avec qui on se comprend et en qui je peux avoir confiance. Et je sais que t'es cette personne, donc t'inquiète pas. Le reste, tu vas apprendre. J'ai quand même 2-3 contacts dans la presse, donc on y va. Et voilà. Et donc, je suis devenue attachée de presse complètement par hasard pour sa campagne. Et ensuite, on a fait les primaires. Et puis, c'est un petit peu la fin, du coup, de cette aventure politique, puisque Juppé perd les primaires. Pour Virginie, c'est aussi très compliqué dans tout cet univers-là. Son avenir en tant que future maire de Bordeaux, c'est pas vrai, ça s'annonce pas très 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 bien. Et puis bah moi je me perds, je vois plus rien, je vois plus d'avenir, je vois plus de, je vois plus ma place. Et donc je vais pas bien, du tout. Alors
comment ton corps il te parle?
Oh bah là j'ai plus d'énergie. Je suis pas vraiment déprimée parce que heureusement j'ai une vie personnelle très épanouie. Entre-temps, j'ai eu mon troisième enfant, je m'en suis super bien occupée. J'ai mes trois enfants, je mets toutes mes good vibes qui me donnent des good vibes. Et puis pareil, j'ai un mari avec qui je suis bien, une super famille, une super belle famille, enfin voilà, ma vie perso me comble et heureusement me permet de d'aller bien. Et de tenir, mais alors professionnellement, je suis nulle quoi. Je suis nulle, je sais plus rien faire, j'ai tout perdu. Et donc j'en parle bien sûr avec Virginie et elle me dit bah écoute, de toute façon, on est peut-être arrivé au bout d'un chemin. On profite de ton CPF, hein, de ton compte formation, on te finance du coaching. Tu te fais accompagner, tu vas trouver ce qui te correspond. T'as d'énormes capacités. Enfin, elle me regonfle à bloc et elle me propose de me faire coacher. Et je découvre donc enfin, il se trouve que j'ai 40 ans. Souvent, hein, voilà, ça tombe toujours à ce moment-là. Et voilà. Et là, je découvre enfin le développement personnel. Et tout s'éclaircit. Voilà, tout est. Ben, je prends du temps, hein, pour travailler là-dessus.
Qu'est-ce que tu découvres?
Ben, je découvre, j'allais dire tout. Je découvre les méthodes. Je découvre, ben, comme je te disais, l'estime de soi, les fondations. En fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai trouvé un accompagnement qui m'allait très très bien. C'est une coach qui travaille en individuel et en collectif. Et finalement, moi, ça m'allait très bien en individuel par quelques séances pour démarrer en fait, pour comprendre les besoins, enfin voilà où j'en étais. Et ensuite, elle travaille sous forme de séminaire. Et le premier séminaire, c'est l'estime de soi. De toute façon, il faut redémarrer par là. Et donc, c'est une semaine full time, enfin non-stop, sur l'estime de soi. Et donc, ça fait mal. Enfin, là, on prend le temps, et on est en petit groupe. Et donc, on apprend aussi, on s'écoute, on comprend à travers les uns les autres, on se livre. Et là, je découvre tout, la méthode, l'évolution, la mienne, mais aussi celle des autres, la puissance de ces outils, la puissance de l'humain, la puissance de la coach. Et elle me l'avait dit, hein, elle s'appelle Nadine, elle m'avait dit, de toute façon, t'inquiète, enfin, tu vas voir, toi, déjà, à la fin du premier séminaire, tu vas te sentir d'une puissance, plus rien ne va t'arrêter. Bon, je lui dis, bon, vraiment, ça m'étonnerait, parce que, et en fait, bah, elle avait raison, à la fin de ce premier, mais c'est ce que je te disais par rapport à mes parents aussi, en fait, je me suis rendu compte, déjà, avec ce séminaire, que j'avais les fondations, j'avais eu la sécurité, l'amour, voilà, et donc j'avais perdu beaucoup de choses dans mes dernières années de vie professionnelle là qui m'avaient un petit peu rabaissée, mais enfin bon, c'était pas usé, et puis j'avais pas eu les codes, il y a certainement plein de choses que j'ai pas réussi, que j'ai pas fait comme il fallait, c'était pas mon univers, je m'étais un petit peu battue, tu sais, c'est comme quand tu pédales dans la semoule là, tu veux progresser, tu veux atteindre des objectifs, mais en fait non, t'as pas les codes, enfin ça marche pas comme ça, donc tant que t'as pas compris en fait le truc, tu peux perdre des années parce que t'es pas aligné en fait. Mais ça, si personne te l'explique et si tu fais pas de développement personnel, tu peux pas le savoir en fait. Et voilà, donc tout s'est éclairci assez vite. Et le deuxième séminaire, c'est un séminaire de leadership, c'est-à-dire que dans le même groupe, il y avait aussi des managers. Qui prenait par exemple la responsabilité d'une équipe, voilà. En fait, il y avait plein de profils complètement différents. Et moi, je lui dis, moi, leadership, Nadine, moi, j'ai pas d'équipe, j'ai personne. Enfin, c'est pas adapté. Elle me dit, mais ma grande, mais c'est ton propre leadership. Tu vas être ta propre patronne. Enfin, tu vas, avant de diriger des équipes, tu vas te diriger toi. Donc, tu vas voir, c'est totalement adapté. Tu vas faire le séminaire pour toi. C'est ton leadership. Ok. Et voilà. Et donc à la fin de ce deuxième séminaire, je suis prête. C'est la première fois que je me dis ok, en fait je crois que je peux y aller. Je peux y aller seule. Je peux être entrepreneur. Non seulement je peux, mais je dois. Enfin c'est ma place. Ça devient une évidence. Mais c'est long. C'est long. Il faut trouver l'idée. Je me faisais tout un monde quand même d'un chef d'entreprise, j'avais plein de codes en fait, j'en ai encore, hein. J'ai encore des croyances de la réussite d'un entrepreneur.
C'est quoi tes croyances?
Justement, je lutte encore, j'essaie de ne pas me comparer, voilà, mais je sens que c'est encore un petit peu mon maillon faible. Mais j'arrive assez vite à le balayer, tu vois, à me dire non, allez, reste focus sur ton projet, tout ce que tu réussis, tout ce que tu fais bien, arrête de regarder ce que font les autres. Chacun a son histoire, son parcours, et ce que tu fais, c'est bien. Mais j'ai toujours un peu tendance à dire oh là là, mais ça c'est génial, il réussit tellement mieux.
Mais est-il heureux?
Oui, bien sûr, mais c'est pas le sujet, c'est surtout que c'est son, enfin voilà, c'est,
il y a. C'est chacun son histoire et.
Exactement. Et puis il y a plein de formes d'entreprendre et j'ai réalisé, enfin voilà, je continue moi ce chemin aussi et ce travail de développement personnel pour trouver ma place à moi, mon format qui me va bien, avec qui je, voilà, dans lequel je suis bien, dans lequel je peux donner le meilleur de moi-même, avec qui, enfin voilà, avec lequel je peux développer ce projet, etc., etc. Donc voilà, et en fait c'est le déclic pour créer Columbus, pour créer mes propres programmes, puisqu'en fait à ce moment-là je suis maman d'ado, et tout ce que je découvre, je me dis non mais c'est quand même dingue de découvrir tout ça à 40 ans. Enfin, pourquoi est-ce qu'on fait pas ça pour nos enfants? Et je commence à regarder, je regarde ce qui existe. Il y a pas grand chose, hein. C'était il y a 5 ans, tu vois. Autant aujourd'hui ça commence vraiment à se développer, autant il y a 5 ans, franchement il y a pas grand chose. Donc j'en discute avec la coach et je lui dis est-ce que tu penses qu'on peut adapter ces outils aux ados, et comment et pourquoi, et voilà. Et puis de fil en aiguille on construit le programme.
Quand tu dis on? Avec ta coach?
Ouais, parce que le point de départ, c'est le développement personnel. Et assez vite, je l'appelle les clés pour soi. Voilà, les clés, parce que j'ai vraiment rendu compte que c'était, moi, j'avais toutes les portes qui s'ouvraient. Donc, c'était des clés. Et puis, j'ai dit, mais pour les ados, ça fonctionne, en fait. Surtout à l'adolescence, c'est tellement un moment où on comprend rien de ce qui se passe. Et tout est mélangé, on change d'avis tout le temps. Enfin, tout ce qui se passe au moment de l'adolescence, quand on a les clés, ça va beaucoup mieux, hein. Donc, sur la partie coach, avec, pour le développement personnel. Et puis sur le reste, c'est plutôt jeu. Je crée tout le reste, le format, le montage global, les partenaires, et donc j'invente ce programme pendant les vacances, parce que connaissant un petit peu le système, naturellement le sujet de l'orientation et des ados, c'est plutôt collège et lycée. Mais là, c'est mes 10 ans de politique et d'administration. Je me dis, ma grande, avant que tu mettes le petit doigt dans l'éducation nationale, il va te falloir 15 ans. Et de toute façon, tu n'as ni les études, ni l'expérience, ni le format. Tu n'as rien qui colle avec l'éducation nationale et avec ce monde-là. Et en plus, je ne suis pas coach. C'est-à-dire que je ne me suis pas formée moi-même pour être coach. J'ai pris le parti plutôt de dire, je vais travailler avec des coachs certifiés. Donc, je ne travaille que avec des professionnels certifiés. Mais moi-même, je me suis dit, non, je vais rester dans mon savoir-faire et dans mon activité plutôt entrepreneur. Et donc, le temps qui reste en dehors de l'école, c'est les vacances. Ça tombe bien, 16 semaines de vacances scolaires, et ça tombe bien, j'avais des ados, et tous les 2 mois, je commençais à me dire, qu'est-ce que je vais leur faire faire pendant les vacances? Et à part du sport et des loisirs, ou des révisions, c'est-à-dire bosser encore le maths, les français, machin, enfin rester dans la pression scolaire, je me rends compte qu'il n'y a pas grand-chose. Et j'ai dit, je vais faire ça. Et donc, j'ai créé d'abord le premier programme, je l'ai créé pour eux. Je l'ai créé comme si on partait en vacances avec mes enfants et une bande de potes. Donc, j'ai pris 5 jeunes, 5 ados, et j'ai fait un programme de colonie de vacances pour eux. On est parti en auberge de jeunesse. Tous les matins, donc, on avait nos ateliers de coaching, de développement personnel, les clés pour soi avec la coach. Génial, c'était trop bien. Et les après-midi sur le terrain, dans les coulisses de structure. Et ça, c'est l'analyse un petit peu de la politique. Quand ma coach m'a dit, bon, cette expérience politique, elle vous a servi à quelque chose. Il y a quoi derrière? Vous voulez en faire quoi? Et je lui ai dit, moi, ce que j'ai adoré, c'est que tous les jours, dans la même journée, on peut rencontrer des gens complètement différents de tous les univers. Et ça, pour moi, il y a deux façons de le faire. C'est soit être journaliste, soit faire de la politique. Mais il y a très peu de métiers ou de l'événementiel. Mais encore, c'est encore différent. Il y a très peu d'opportunités ou de métiers qui permettent d'aller dans le fond des sujets, parce qu'en politique, on travaille le fond, hein, quand même. On s'intéresse concrètement à la problématique, comment la résoudre, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, enfin, etc. Sur tous les sujets. Et moi, ça avait nourri ma curiosité, et je me suis rendu compte que la curiosité, c'était quand même ce qui m'avait guidée, et que c'était ces fameuses soft skills dont on parle aujourd'hui, et dont on parlait très peu, et dont on va encore plus parler demain, que c'était une des compétences les plus importantes, et qu'il fallait absolument la redévelopper chez nos ados, parce que malheureusement, elle est en train de se perdre. Et voilà. Et ce programme, il est parti là-dessus, où je me suis dit, je vais mettre tout mon réseau à leur disposition. Et tous les jours, on va aller rencontrer des gens complètement différents. Et donc, on a fait comme ça, une journée.
Et les enfants, les ados, ils avaient quel âge?
Et là, les premiers, ils avaient l'âge de mes enfants. Donc, j'ai commencé avec les 12-14.
Et comment ils ont appréhendé avant de partir, et comment ça s'est passé? Quel a été leur retour après?
Écoute, ils savaient pas trop. Et même encore aujourd'hui, le conseil que je donne souvent aux parents, c'est rentrez pas dans le détail. Déjà, vous dites surtout pas que c'est une colo ou un camp pour l'orientation. Alors, ça fait rêver personne, donc vous parlez pas d'orientation. Les métiers, vous en parlez un peu, mais non, ça fait pas vraiment rêver. Donc, ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est ils partent en vacances, ça va être génial, ils vont rencontrer des gens. Des gens incroyables qui vont leur raconter leur histoire de vie, de parcours, qui vont leur donner des conseils. Ils vont aller dans les coulisses des structures où ils sont jamais allés. Et c'est tout. Et tous les soirs, il y a une soirée et ça suffit. Ça suffit pour les faire venir. Et voilà. Et ça fonctionne toujours.
Ouais. Donc là, tu as lancé l'activité en 2020.
Alors, j'ai lancé l'activité en 2019, premier groupe. Premier groupe en 2019 et 2020, Covid. Donc finalement, 2020-2021, je maintiens l'activité parce que j'y crois et parce que j'en profite aussi pour développer mes partenariats, structurer, parce que dans le dans la vision et vraiment dans ce que dans mes objectifs, j'ai un objectif de mixité sociale qui est important. Bah, qui dit mixité sociale dit partenariat avec des acteurs des quartiers prioritaires, des zones rurales, de l'aide sociale à l'enfance, des jeunes décrocheurs, enfin voilà, vraiment cette mixité des publics
pour pouvoir faire en sorte que le séjour soit pris en charge par ces associations.
Oui, alors il y a la partie financière effectivement où il faut aller chercher les fonds pour ces jeunes-là. Et puis c'est surtout pour le vivre ensemble, pour le développement des compétences humaines, de tout ce qu'on apprend pendant mes camps. Il n'y avait pas que le volet orientation. Enfin, je voulais vraiment que ces outils ils soient les mêmes, qu'on soit, premier de la classe, c'est-à-dire scolairement qu'on soit très bon, ou qu'on soit décrocheur parce que le système scolaire en fait est pas du tout adapté, ou parce que humainement je suis pas bien et je décroche, mais voilà, c'est le même contenu qui est pour tous les jeunes. Et surtout, la mixité sociale, si on la vit pas pendant les vacances, on se rend compte que on la vit pas dans la vie de tous les jours ou très peu. C'est assez difficile finalement d'avoir des moments où on peut côtoyer des jeunes de tous les univers qui se rencontrent.
Et donc là. Ouais, oui, dans le sport, en effet, où c'est un bon, t'as une belle mixité. Et là, donc tu lances ce premier camp. Comment tu te sens dans ton corps?
Ouf, je me sens fatiguée. Je me sens très fatiguée parce que si tu veux, pour me lancer là-dedans, j'ai passé mon BAFA. J'ai été obligée de reprendre, quand j'ai mis le nez dans le système, et là c'est purement administratif, je me suis rendu compte que mon programme il s'inscrivait dans un cadre légal qui s'appelle accueil collectif de mineurs, et que pour encadrer des mineurs, même si j'ai mon bac plus 5, 20 ans d'expérience et que je suis maman de 3 enfants, je n'ai pas le droit d'encadrer des mineurs. Voilà. Et que le minimum c'était d'avoir le BAFA. Donc j'ai commencé par ça, j'ai passé mon BAFA à 40 ans. J'ai dû faire mon stage. Donc j'ai passé 15 jours dans une colo avec 25 ados où j'étais épuisée, mais je me suis régalée, je me suis dit moi j'adore, je suis hyper contente. Enfin voilà, c'est un âge que j'adore moi les ados. Et par contre, c'est épuisant. C'est sûr que à 25 ans, tu fais ça tranquille. À 40, on n'est plus fatigué. Hein, c'est du non-stop. C'est clair que c'est une colonie de vacances. C'est 7 heures du mat, minuit, parce que le temps que tout le monde soit couché, qu'on les calme, on les trucs, on les machins, il faut toujours qu'on.
Ah putain, envie d'avoir un petit moment pour toi aussi dans la journée quand même aussi.
Ouais, non, pas en colo, pendant un camp, t'as pas de temps pour toi. T'es 100% pour eux et pour le programme. Donc ça demande beaucoup d'énergie, sachant qu'en plus dans un camp d'une semaine, les deux premières journées, elles sont vraiment créer la cohésion et la confiance. Parce que justement, c'est des ados. On est des adultes, on se connaît pas. Et ils se livrent pas. Enfin voilà, sauf les profils entre guillemets un peu extravertis. Mais il y a quand même beaucoup de jeunes. Il leur faut bien les deux premières journées pour se mettre dans le programme et commencer à se livrer. C'est-à-dire aussi à mettre des mots sur leurs émotions, à partager des histoires, on travaille sur les croyances limitantes, on travaille, tu vois, sur tous ces sujets hein, de coaching. Et c'est des choses qu'ils ont jamais faites, et c'est des choses qui sont pas faciles à faire. C'est pas facile déjà nous quand on le fait adulte. Donc à 15 ans, c'est pas facile. Il faut du temps. Donc les deux premiers jours, on met beaucoup d'énergie pour créer la confiance et créer la cohésion et transmettre vraiment le côté good vibes. Moi, c'est vraiment hyper important. Et ensuite, les 3 jours d'après, parce que c'est 5 jours, c'est une semaine. Hein, on rentre dans le cœur. On le rentre dans le cœur. On commence vraiment. Et donc là, on accorde plus de temps à l'individuel. Tu vois, les deux premiers jours, on est vraiment dans le collectif. Et les les deux derniers, j'allais dire, on rentre dans l'individuel et donc on essaie de consacrer du temps à chacun pour apporter des réponses.
D'où le fait que ça soit des petits comités, parce que t'as maxi quoi, 12 enfants ?
Ouais, exactement. C'est des groupes de 12. C'est des groupes de 12. On va jusqu'à 15. Mais on dépasse pas les 15, et même quand ils sont 15, après on les met en sous-groupe, hein. Donc pendant les ateliers de les clés pour soi, on les met en sous-groupe de 4, 5 maximum. On est 4 adultes, hein, en général, enfin suivant la taille du groupe, on est 3-4 adultes pour les encadrer.
Du coup, comment t'as fait pour te constituer du coup une équipe et puis être toute seule? Donc tu travailles avec des coachs certifiés, mais j'imagine que pour tout ce qui est vie pendant les camps et même potentiellement en dehors, tu as besoin d'aide?
Bah écoute, ouais, j'ai eu de la chance, mais c'est aussi en parlant, etc. J'ai trouvé mon directeur de séjour, parce que c'est vraiment une personne hyper importante pour la réussite du camp. En fait, j'avais gagné. Au début de ma nouvelle vie d'entrepreneur, j'ai fait des concours, des programmes d'accompagnement, etc., etc. Donc j'ai rencontré forcément, enfin, pas mal de gens. Et j'avais fait un programme qui s'appelle Women Act, d'une asso vraiment pour les femmes entrepreneurs sociales. Et donc c'est un programme national. Et donc on était une vingtaine, c'est des promos à peu près de 20 femmes engagées, géniales, toutes portant des projets fabuleux. Et ma mentor avait monté elle a monté un très beau projet, elle, de crèche éco-responsable, engagée, etc. Super. Elle est à Bordeaux. Et je me souviendrai toujours. Elle me dit rapidement, bah écoute, franchement, ça me gêne un peu. Je suis ta mentor, mais je sais pas quoi t'apporter. Enfin, t'as pas besoin de moi. Je dis si, franchement, j'ai besoin de toi. Elle me dit sur quoi? Je lui dis, tu vois, par exemple, sur mon équipe, je sais pas par où commencer, je me vois pas lancer une petite annonce comme ça, enfin, je sélectionner des gens sur un CV, alors, enfin, c'est un projet qui est tellement, enfin, personnel et tout, je sais pas comment faire, je sais pas toi comment t'as fait pour recruter, enfin, on parle là-dessus. Et puis elle me dit, moi, mon beau-frère est là-dedans. Alors je lui dis, ce serait génial. Et en fait, c'est devenu mon...
Énorme.
C'est
chouette.
C'est devenu mon directeur de séjour. Et tout s'est fait comme ça. Tout s'est fait un petit peu comme ça. Voilà, je me suis fait confiance. Je me suis fait confiance. Je fais confiance aujourd'hui encore plus qu'avant, parce que je le travaille à mon instinct, aux rencontres, aux signes. Voilà, donc finalement, c'est assez rare que je me retrouve dans l'obligation d'aller chercher, tu vois, je lance des
appels à toi.
Voilà, je lance des appels à l'univers, je me fais mes petits trucs, enfin voilà,
c'est quoi tes petits trucs?
Je suis connectée, tu vois, voilà, mes petits trucs par exemple, c'est d'écrire sur un post-it là dans mon, tu sais, j'utilise le vision board avec les jeunes dans le cadre du camp. Le dernier jour, ils font leur vision board. Et parce que je me suis rendu compte de la puissance de cet outil, et je trouve que pour les ados ça fonctionne super bien. On le fait, comme un vision board, découpage, machin, ils mettent leurs trucs. Et puis moi je me fais mes petits trucs comme ça aussi. Quand il y a vraiment quelque chose que je veux, je me le note. Il est là, et je pense que le fait que ce soit écrit, ça rentre dans un objectif, un peu de l'inconscient, et puis finalement ça marche. Et je me dis, si ça marche pas, c'est pas le bon moment, ça viendra.
Ouais, c'est ok.
C'est ok. J'ai arrêté de perdre du temps, parce que finalement, au début de l'aventure, je me suis associée et ça s'est hyper mal passé. Je me suis fait planter par cet associé. J'ai perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, parce que j'avais fait rentrer des fonds dans l'asso.
Parce que du coup, c'est une association que tu as créée.
Non, alors justement, on avait monté avec l'associé de l'époque, on avait monté un... Parce que quand je me suis lancée là-dedans, je me suis lancée aussi dans l'économie sociale et solidaire. Donc, j'ai découvert le milieu de l'économie sociale et solidaire, son fonctionnement. Donc, En parallèle, je me suis engagée dans des assos pour voir comment fonctionnait une asso. Je suis devenue moi-même présidente d'asso. Je suis rentrée au conseil d'administration de plusieurs assos, etc. Et puis, j'ai rencontré beaucoup de gens. Bon, je me suis mise vraiment à fond dans l'économie sociale et solidaire pour comprendre son fonctionnement et pour pouvoir aussi ensuite faire mes choix. Et je me suis rendu compte que dans ce milieu-là, il y avait beaucoup de doubles structures, comme par hasard. Il y avait, et ça se faisait pas dans le même ordre. C'est-à-dire, soit tu commences par ton asso, l'asso marche super bien, et puis finalement, on finit par monter une boîte pour faire rentrer de l'argent. Soit, inversement, on monte une boîte, et puis finalement, on se rend compte que, on a besoin de fonds publics, de subventions, de mécénat, de philanthropes, parce que on a un objet social. Et que cet objet social, il est beaucoup plus facile à financer dans une asso, et donc on monte une asso. Quand je me suis rendu compte de ça, et que j'avais trouvé sur le papier l'associé idéal, lui, il avait une asso, et moi j'avais monté la boîte. Donc j'ai dit, bah très bien, ça y est, on a nos doubles structures. Donc dès que j'avais une opportunité de lever des fonds qui rentrait dans le cadre de l'asso, bah on le faisait avec l'asso.
Tu mettais sur son chez lui, ouais.
Et inversement, dès que c'était plus privé ou dès que c'était vraiment privé, on le mettait dans la boîte. Et voilà. Et pour différentes raisons, il m'a planté et finalement ça s'est arrêté en 2021. Et ça a été un très très bon déclic puisque ça m'a permis aussi de me rendre compte que j'avais été chercher. J'avais été chercher des choses dont je n'avais pas besoin, qui n'étaient pas alignées avec ce que je voulais, et qui finalement me freinaient plus qu'autre chose. Et finalement, j'ai rebondi et je me suis relancée l'année dernière, en 2021, vraiment seule. Et c'est ok, et ça marche beaucoup mieux. Et je me suis refait des petites séances de coaching parce que je me suis quand même pris une claque humaine et émotionnelle, un échec. Et finalement, voilà. Et donc j'ai retravaillé, comme tu dis, hein, souvent, mon why, le pourquoi, le comment, le qui, avec qui. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et
ouais.
Et donc finalement, par rapport à l'équipe, puisque c'était là, pour en venir là, je me suis rendu compte que j'avais envie maintenant de travailler avec des gens qui fonctionnent, qui me ressemblent,
qui partagent les mêmes valeurs.
Ouais. Et puis et donc voilà. Et donc finalement, je travaille avec que des freelances qui sont un petit peu comme moi, c'est-à-dire on se fait confiance. C'est des pros. Et finalement, je suis pas aujourd'hui dans un objectif, en tout cas à court terme, de vouloir embaucher, créer une équipe, salarier des gens. Non, je suis pas là-dedans. Ça viendra peut-être, mais c'est pas
ton moment. Comment t'écoutes ton intuition?
Comment j'écoute mon intuition? Je sais pas. Elle me vient. J'ai toujours des trucs dans la tête. C'est dans la joie. Dans la joie et dans le plaisir. Ça, c'est pareil. Je l'ai découvert quand j'ai réfléchi à. Quand j'ai fait tout ce travail sur moi, je me suis rendu compte aussi avec l'énéagramme. J'ai adoré faire mon énéagramme. Ça a été vraiment un révélateur pour ça. Parce que je me suis rendu compte que je fonctionnais dans la joie, le plaisir, le bonheur. Voilà. C'est pour ça que quand je m'ennuie, je peux pas m'ennuyer, moi. Si je m'ennuie, je tourne pas. Et le problème, c'est que je m'ennuie très vite. Donc mon intuition, allez voilà. Si ça me fait chier, enfin là c'est un peu du langage, mais voilà. En gros c'est ça. Mon intuition c'est que si je m'ennuie, si je le sens pas, si c'est pas comme si j'ai pas de plaisir, c'est que c'est pas bon.
Comment tu célèbres tes réussites?
Ah, je les célèbre pas assez. Ça fait partie des choses à travailler. Je les célèbre pas assez. Je suis encore, j'ai encore l'impression que c'est normal. Voilà, que bah non, voilà. Donc je sais, non, je les célèbre pas assez. Alors maintenant que j'ai une équipe, justement, même si c'est des freelances, on est vraiment une équipe. Hein, on travaille toutes les semaines ensemble. Donc j'aimerais bien commencer par célébrer avec elle et avec eux. Mais je le fais pas assez non plus. J'ai réussi à faire un petit déj là. Bon, c'était un truc boulot, mais enfin quand même, c'était quand même un peu sympa. Non, je célèbre pas. Je célèbre très peu.
Et comment tes enfants ils voient ton projet? Avec quel regard?
Ben je sais pas. Faudrait leur poser la question à eux. Je pense qu'ils sont assez fiers quand même des publications. Tu vois les journaux. Je trouve que quand même avoir un article dans le journal, ça a un impact. Ça a un impact pour soi. Moi j'avoue que ça m'a fait plaisir. Ça a un impact pour les proches. Ça fait du bien de voir que les parents sont fiers, ma sœur, bien sûr, mon mari, la famille, les amis et les enfants, bien sûr. Donc, y a une fierté du côté, pourtant en soi, aujourd'hui, enfin, on se dit avoir un article dans un journal, ça, enfin, mais non, tout le monde n'a pas un article dans le journal. Donc, Mais au-delà de ça, ils s'impliquent pas beaucoup. Et pourtant, j'aimerais bien qu'ils s'impliquent parce que c'est mes premiers ambassadeurs. Ils ont déjà fait 3 fois le programme. Toute leur communauté, enfin eux, ils sont à fond sur les réseaux sociaux. Toute leur communauté, bah c'est mon public en fait. Donc c'est-à-dire que juste si eux disaient Columbus Camp, c'est génial. Déjà, ils m'amèneraient plein de monde, mais ils veulent pas, ils sont pas. Et alors c'est marrant parce que à chaque programme, maintenant, on demande aux jeunes, on leur fait un peu un défi Insta, on essaie de les mettre dans la peau un peu des influenceurs, mais pour Columbus Camp, tu vois, pas d'influenceurs pour les marques, enfin pour une paire de chaussures, pour un truc, tu vois, qui a du sens, le programme, parce que quand je vois à quel point ils en parlent et ils me remercient et ils adorent le programme et on a quand même des retours à chaque fois de jeunes qui nous disent oh, mais merci, ça devrait être, enfin tous les jeunes devraient faire ça, vraiment j'ai tellement grandi, je me sens tellement bien, merci beaucoup. Enfin, mais quand il faut le dire devant sur un réseau social, en fait comme on touche à un petit peu l'intimité, bah en fait c'est pas du tout c'est pas pareil et en fait non, pour l'instant c'est la prochaine étape, tu vois, c'est la prochaine étape, c'est d'essayer de créer un petit peu une communauté d'ambassadeurs qui vraiment sont prêts à porter avec moi le programme, bah parce que quand c'est des jeunes de 16 ans qui en parlent et qui l'ont vécu, bah c'est mieux que moi en fait. Moi je peux pas.
C'est sûr.
Moi je l'incarne en tant que fondatrice, développement, partenariat, enfin tout ce que je fais, mais pour un jeune de 16 ans, faut que ce soit un autre jeune de 16 ans qui en parle quoi.
Tu vas à chaque camp?
Ouais. Ah oui, c'est mon plaisir, c'est mon kiff aussi, hein. C'est vraiment on les prépare en fait, on les prépare et puis c'est là qu'on donne finalement le maximum pour eux. Je pense que pour les parents c'est important aussi parce que les parents ils me font confiance à moi, c'est vraiment ma vision. Donc pour l'instant, si tu veux, je suis pas à un stade où j'ai 10 camps en même temps. Donc pour l'instant, on en est encore à, on fait un camp, on le remplit, on le prépare bien, on s'occupe d'eux, on fait le suivi, on essaie d'entretenir la relation avec chacun. Donc là, on en est à 80. On a accompagné 80 jeunes depuis le début. Et moi, je suis encore dans la qualité de l'accompagnement plutôt que la quantité, le nombre de jeunes. Ouais.
À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi?
Bah la première fois, je pense vraiment c'est mon entrée en politique, comme je te le disais, parce que c'était totalement improbable. Et d'ailleurs, je me souviens, enfin, ça s'est pas fait facilement, hein. Ça s'est fait, voilà, même difficilement. Et c'est un de mes mentors, si on peut, ouais, je peux l'appeler comme ça, qui un jour m'a dit, bon, écoute Delphine, en fait, ça marche pas comme ça. Là, tu vois bien comment marche le système. C'est simple. La prochaine fois, tu te chopes Juppé. T'as 2 minutes pour le convaincre. Et à l'époque, j'appelais pas ça un pitch, mais en fait, c'est ça. Et il m'a dit, c'est ça en fait. Là, arrête avec tes mails, tes trucs, non, c'est comme ça que ça marche. Vas-y. Ah ben là, le pourquoi pas moi. Et je l'ai fait. Et voilà, et j'ai mis mon audace, mon énergie, ma motivation, etc. Il m'a écouté, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit, j'ai besoin de gens comme vous dans mon équipe. Ok. Donc ça, c'est la première fois. La première fois. Et j'ai eu le poste après. Hein, c'est voilà. Et la deuxième, bah c'est là, c'est récemment, hein, c'est de dire la vie d'entrepreneur, je suis prête. C'est pas vraiment un pourquoi pas moi. Ça s'est pas fait vraiment comme ça, comme je te l'ai expliqué. Ça a été plus, c'est un chemin un peu long. Et après, sur d'autres petits challenges, c'est-à-dire une fois que j'ai commencé vraiment à me pousser, aujourd'hui encore, je l'ai mis dans mes programmes et je me l'applique à moi-même. J'essaye le plus souvent possible de faire des premières fois. Donc, je rêvais de monter sur scène depuis que j'étais enfant. Bah, à mes 40 ans, j'ai dit, ok, donc ça, c'est un peu un pourquoi pas moi. Je fais du théâtre. Je vais monter sur scène. Je l'ai fait, j'ai adoré, mais voilà, j'ai pas continué, mais je l'ai fait. Je rêvais de faire du surf, pareil. Bon, ça a été ma liste de tout ce que je voulais faire à 40 ans, j'avais pas fait. Et encore aujourd'hui, eh ben, dès que j'ai une opportunité de faire un truc pour la première fois, je le fais. Et je l'ai mis dans mes camps parce que à chaque fois, dès le premier jour, on teste les jeunes, on leur pose plein de questions sur ce qu'ils ont fait, pas fait, etc. Et on se laisse plein de temps de libre dans la semaine qu'on n'a pas préparé pour rebondir sur des choses comme ça, notamment les soirées ou des temps libres, etc. Et pour donner un exemple, le dernier groupe qu'on a eu à la Toussaint, le premier jour, on a discuté de plein de choses, on s'est posé plein de questions sous forme de jeu, etc. Et on s'est rendu compte qu'ils n'avaient jamais été au théâtre. Aucun. Dans le groupe des 9. Dire, bah, ok, bah, on va aller au théâtre, on va se faire une soirée, on va se faire un spectacle, etc. Et du coup, on a fait du théâtre d'impro, parce que c'était encore plus accessible et participatif. Et puis, du coup, ça leur donnait vraiment des super outils en termes de compétences. Moi, j'adore le théâtre d'impro. Et voilà. Et je pense que bah, le côté pourquoi pas, c'est de dire, en fait, à chaque fois qu'on a l'occasion, je pense, de faire quelque chose pour la première fois, eh ben il faut le faire, quel que soit son âge.
Ça me parle beaucoup parce que tu vois, bon, cet été, je me suis séparée du père de mes enfants. Ça faisait 17 ans qu'on était ensemble et bon, clairement, j'avais pas vu le coup me tomber sur la tête. Et du coup, j'ai un vrai besoin de me sentir vivante depuis cet été. Et depuis cet été, je me fais plein de premières fois et tu vois, première fois dans un biplace en avion, alors que bon, sur le principe, j'ai un peu le vertige. Première fois en acrobranche avec les enfants. Là, hier soir, je suis inscrite dans un club de natation et donc en général, je vais nager et après, je vais au sauna ou sinon, je fais mer et sauna. Et bon, hier, il y avait un peu des méduses et tout dans la mer, donc j'étais là, bon, allez, je fais piscine. Et donc je vais au sauna et tout, et puis là je rencontre un de mes prochains invités du podcast. Je l'interviewe là vendredi. C'est un homme qui était joaillier, qui a gravi l'Everest. Aujourd'hui il est aventurier, explorateur. Je sais pas trop la définition encore. J'en saurai plus vendredi. Ouais. Et là on discute et tout, et puis on discute avec d'autres personnes Et là, il dit, allez, on se bouge, on va tous au sauna. Donc là, il est 18h, il fait à moitié nuit. Et je dis, enfin, on va tous en mer. Je dis, bon, bah, écoute, allez, franchement, pourquoi pas, j'ai jamais fait. Donc, du coup, j'avais fait ma piscine, j'étais dans le sauna. Donc là, on part en maillot, on se retrouve dans la mer qui était à peu près à 18 degrés, même température à peu près que l'extérieur. Là, on est resté, je sais pas, peut-être 5-10 minutes. Mais c'était un moment mais tellement magique. Franchement, tu avais le coucher de soleil, on était bien. Alors oui, clairement, hein, tu rentres dedans, t'as un peu froid et tout, mais t'as. Je disais, il s'appelle Ara. Je dis mais Ara, je dis mais tu te rends compte là, il y a une époque, j'étais dans mon métro à Paris, même à 18h, j'étais encore au bureau, et là, je suis en train de nager en pleine mer. Enfin, et là après, on est retourné au sauna derrière, mais oh, je suis sortie du truc. Alors j'avais passé une journée compliquée. J'étais là, mais waouh, mais en fait, la vie est tellement belle. Et clairement, de faire des premières fois, et c'est vraiment les premières fois, ça peut être sur plein de choses, enfin, sur plein de petits, de micro trucs. C'est casser son quotidien, se sentir vivant, et c'est vrai que c'est magique.
Mmh. Ouais, et ça commence, enfin, c'est un peu une éducation. Enfin, ça commence vraiment, dans l'enfance. C'est-à-dire que quand on, bah, quelque part, quand on a la chance d'avoir des parents qui sont un peu dans cet esprit, un peu quand même, hein, aventurier, curieux, il se trouve que l'enfance ou l'adolescence peut être remplie de premières fois, parce qu'il y a quand même toujours plein de choses, voilà. Mais on se rend compte, et encore plus malheureusement aussi dans le monde d'aujourd'hui, à cause des écrans, à cause des familles séparées, recomposées, à cause du changement de société, que finalement il y a de moins en moins de place, tu vois, on est beaucoup plus dans le confort. Un confort de ce qu'on fait déjà, de nos vies, du temps, on n'a pas le temps, on se trouve toujours des excuses, etc., etc. Et finalement, la majorité des jeunes qu'on accueille, en fait, ils osent pas. Parce qu'ils ont pas été, on leur a pas dit, mais si, mais vas-y, mais au contraire, c'est génial, etc.
C'est une vraie gymnastique de l'esprit, c'est qu'en fait tu dis finalement t'arrives à alors déjà tu sors du truc, t'es fier, et puis après c'est vraiment ton esprit, tu l'habitues, et tu te dis c'est des premières fois sur des petites choses, et puis au fur et à mesure c'est des premières fois sur des grandes choses, et c'est vraiment un vrai réveil et une vraie gymnastique de l'esprit.
Exactement, et c'est ça qui te permet de progresser. C'est ça qui te permet d'oser de plus en plus facilement. C'est-à-dire, plus tu le fais, moins c'est dur.
Exactement. Et donc, du coup, tu commences sur des trucs microscopiques, genre, je sais pas, tu te lances sur une nouvelle recette, un truc où tu te sens, et puis après sur des petites choses, et puis après, au fur et à mesure, tu te sens mieux, en fait.
Ouais.
Mmh. C'est quoi pour toi la réussite ?
La réussite, c'est ça, c'est d'être aligné, c'est d'être dans son chemin, de se sentir bien, et libre, hein, dans un chemin qu'on a choisi ou pas, quelquefois, mais en tout cas, de trouver les clés de cet alignement. Quel que soit l'argent qu'on gagne, quel que soit le métier, quel que soit le cadre, etc. Si on est aligné avec ça et qu'on est bien, normalement on a réussi. Enfin, pour moi, la réussite, c'est le bonheur. Enfin, voilà, c'est simplement d'être heureux. Et pour être heureux, c'est ça, c'est de trouver un petit peu les réponses pour être aligné.
Qu'est-ce que tu penses que la petite Delphine de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui ?
6 ans, je sais pas. Je pense que elle dirait tu peux aller encore plus loin. Continue, enfin voilà, t'as encore du chemin, et t'as encore de grandes choses à faire, et vas-y, fonce, c'est maintenant, quoi.
Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, on fait des renoncements. C'est quoi pour toi les renoncements avec cette entreprise?
Non, écoute, pour l'instant, j'essaye de pas en avoir. Parce que justement, c'est un peu des choix entre guillemets. Ce qui est le plus dur, finalement, c'est d'être quand même un peu seule. Enfin, c'est-à-dire que même si je crée mon équipe, j'ai des gens qui travaillent pour le projet, qui sont engagés avec moi. Encore une fois, j'ai ma vie personnelle hyper épanouie. Je suis très proche de mes enfants, de mon mari, de ma famille. j'essaie d'organiser mon temps pour mettre du temps pour moi, pour faire un peu de sport, enfin voilà, hein, tous les trucs, pour voir mes amis, pour rester dans le plaisir, voilà. Donc j'essaie d'être dans cette harmonie parce que quand j'ai travaillé là-dessus, pour moi c'est ça, enfin c'est hyper important d'être en harmonie avec tout ça. Donc j'ai pas l'impression d'avoir renoncé, mais il y a quand même le côté un peu grand groupe. Enfin, tu sais, quand tu fais partie d'un système, que ce soit une grande entreprise, une grande administration, ou enfin une structure. En gros, quand t'es salarié ou même quand t'es dirigeant d'une structure avec beaucoup de salariés, tu as quand même des opportunités. Bah voilà, hein, les séminaires, les soirées, enfin toute la vie d'entreprise. T'es invité. Enfin, c'est vrai que bah moi à la mairie, enfin et voilà, et quand j'étais en politique, j'étais invité tout le temps. T'es invité tout le temps, t'es sollicité. Et en fait, ce qui est le plus dur pour moi, c'est ça. C'est de pas être sollicité. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur et en plus quand on se lance dans un projet comme ça, bon, ça fait que 4 ans. Je le fais aussi à mon rythme. Voilà, je pourrais être beaucoup plus loin, mais je le fais à mon rythme. Je suis pas encore au stade où je suis beaucoup sollicité. Donc c'est il faut aller chercher. Il faut décrocher son téléphone, il faut proposer, il faut se faire connaître, il faut et ça c'est pas vraiment un renoncement, mais c'est la partie qui est la plus pas difficile mais qui est la moins facile.
Et c'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser pendant tout ton chemin de vie ?
Oh, je touche du bois, j'ai pas. Bah, écoute, dans tout ce que je t'ai raconté, tu vois, il y a pas de grand. Enfin, j'ai de la chance, honnêtement, j'ai de la chance. Je touche du bois, j'ai pas eu de drame encore. Voilà, je vais en vivre, hein. Je vais vivre les choses les plus difficiles. Dans nos vies, dans nos vies d'humains, mais pour l'instant, je les ai pas vécues, donc j'ai encore tout le monde qui est autour de moi. Et puis après, bah, on va dire que c'est professionnellement, c'est quand j'ai pas réussi, à obtenir ce que je voulais. Ça a été compliqué. Mais c'est pas très grave. Et puis comme je te dis, j'ai eu cette chance de grandir vraiment. C'est une de mes forces. Je relativise depuis toujours. J'ai toujours relativisé et tout le monde me dit :« Mais Delphine, mais c'est incroyable, mais t'es jamais stressée, quoi. » Mais non, parce que je ne sais pas pourquoi. Alors si je sais, ma grand-mère m'a toujours chanté une petite chanson. Quoi qu'il arrive, j'ai toujours le sourire et elle nous l'a chantée tout le temps. À chaque fois qu'on n'allait pas bien, tout ça. Allez. Quoi qu'il arrive, j'ai toujours le sourire. Et cette chanson, voilà, je prends la vie du bon côté et je me dis qu'il peut m'arriver pire et ça suffit pour me mettre en gaieté. C'est une petite chanson qu'elle nous a chantée toujours. Je pense qu'elle est rentrée et qu'elle m'a nourrie. Et voilà. Et maman aussi qui m'a toujours dit, mes parents aussi, hein, qui ont dit, quand ça doit se faire, ça se fait, etc. Donc, je pense que j'ai eu cette facilité à tout relativiser et que du coup, je le transmets aussi à mes enfants, je pense. Et d'un autre côté, quand j'y réfléchis, je me dis, est-ce que c'est pas ça aussi qui fait qu'on manque d'ambition ? C'est une grande question pour moi, le côté ambition, réussite, etc. Je me dis, ouais, mais d'un autre côté, le fait de... Bah, c'est sûr, on ne stresse pas, on relativise tout. Donc, du coup, tout est toujours OK. Mais il y a des fois, faut peut-être y aller, quoi. Faut peut-être, si tu veux beaucoup plus, bah il faut aller le chercher. Tout ne tombe pas du ciel, voilà. Donc je suis encore un peu en questionnement, notamment sur la partie éducation de mes propres enfants et aussi sur la partie accompagnement des ados. Le volet développement personnel, j'y suis, mais le côté trouver le bon équilibre par rapport à sa propre ambition dans cette dose, tu vois, de relativiser, mais en même temps se fixer des objectifs, c'est pas facile. Hein.
Ouais, c'est comme s'écouter, mais aussi savoir se challenger. Enfin, c'est d'arriver à trouver le juste curseur au bon endroit. Et c'est vrai que c'est, bah, je pense que c'est un travail d'une vie. Hein.
Ouais, c'est un travail d'une vie, et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup tous les messages de ton podcast, de pourquoi pas moi. C'est aussi d'apprendre à se faire confiance, d'être à l'écoute de cette petite voix, parce que finalement, quand on se pose trop de questions, c'est là qu'il faut revenir. Elle sait la petite voix, donc c'est là qu'il faut aller chercher. Et qu'il faut revenir bah, quand ça va pas, ou quand on doute, ou qu'on. Après j'ai un autre, je dors beaucoup, tu vois. Donc et souvent bah, c'est un conseil. Je dis bah tu sais quoi, quand ça va pas, va te coucher. Demain il fera jour. Tu vas dormir et je te jure que ça marche. Moi quand ça va pas ou je dors. Et quand je me réveille, ça va mieux. Enfin, c'est incroyable.
Ah mais oui, non, mais je comprends. Parce qu'il y a un moment, il faut savoir. Tu vois, hier, j'avais un gros coup de mou pour plein de raisons. Et en fait, j'ai déposé les enfants à l'école. Je suis rentrée chez moi. Je me suis mise sous la couette et je me suis dit, attends, là, de toute façon, je ne sers à rien. Exactement. Ça sert à rien que j'essaye de monter mon épisode de podcast de jeudi parce qu'en fait, là, je ne sers à rien. Donc, je me suis mise au lit. Sans aucune culpabilité, j'ai évacué toutes les larmes que j'avais à évacuer et en fait, j'étais dans une espèce de demi-sommeil et j'ai eu plein d'idées lumineuses, en toute humilité, sur des trucs, sur des points de blocage que j'avais dans ma boîte, sur des points de blocage que j'avais au niveau perso et tout. Et je me suis dit, ouais, en fait, c'est un beau cadeau que je me suis offert parce que oui, t'as le côté « Ah, mais attends, on est lundi matin, je suis au fond de mon lit, qu'est-ce que je fous ?» Mais en même temps, mon corps, il avait besoin de repos, j'avais la crève, j'avais pas le moral et tout. C'est vraiment savoir se dire « Ok, là, en fait, ton énergie, bah t'en as pas aujourd'hui. Clairement, de l'énergie, j'en ai normalement à revendre. Donc, bah le jour où l'énergie, elle sera à revendre, bah je vais surfer dessus et bosser plus qu'il ne… Enfin, plus pour rattraper. Mais en fait, c'est ça, c'est vraiment savoir se dire… Ok, je prends soin de moi en fait.
Ouais. Ah ouais. Et puis le sommeil, c'est tellement, voilà, c'est.
C'est indispensable quand tu dors pas. C'est ce qu'il y a de pire. Hein. Mm. C'est quoi tes peurs c'est quoi tes peurs quand t'as créé ton entreprise et aujourd'hui, c'est quoi tes peurs?
Alors j'ai pas vraiment peur. C'est pas une émotion que qui me caractérise ou qui est ni un booster ni un frein ni je te dis cette force de relativiser. Donc non, j'ai même pas peur d'échouer parce que si j'échoue, c'est pas grave, je ferai autre chose. Donc j'ai pas vraiment pas vraiment de peur par rapport au projet. Après, c'est plus j'ai encore des questionnements par rapport au modèle économique, voilà, par rapport quand même au côté financier, où j'ai encore des questionnements et le côté, oui, un peu peur de finalement jamais réussir à gagner ma vie correctement à la hauteur. Mais c'est un petit peu le problème aussi de l'économie sociale et solidaire, et puis c'est aussi moi qui n'ai pas encore je pense vraiment enclenché cette motivation financière. Je suis encore beaucoup dans une motivation de contenu, de sens, voilà. Et donc j'essaie de maintenir et de développer le projet avec la dimension de modèle économique qui est importante, mais clairement je ne gagne pas relativement, enfin par rapport à la qualité de l'accompagnement, à la quantité de travail, à mon investissement, à mes compétences, bref. Donc ça, c'est pas une peur, mais c'est quand même une forme. Hein. C'est pas un échec parce que c'est moi qui le, enfin je le gère comme ça. Donc c'est à moi de changer la donne si vraiment je le veux. Mais c'est quand même un truc qui me travaille. Quand même un truc qui me travaille parce que. Ben voilà, parce que c'est sûr que s'il arrive quelque chose, enfin voilà, c'est quand même mon mari qui fait vivre globalement le foyer et c'est un choix de couple, tu vois, cet équilibre, l'équilibre qu'on a construit dans notre couple et du coup cet équilibre financier. Mais par rapport, tu me disais cette petite fille, alors peut-être pas de 6 ans, mais cette l'ado. Et la businesswoman que je m'étais rêvée, bon, sur le volet économique, j'y suis pas.
Après, si tu me permets un feedback, à partir du moment où tu te dis que tu dois aller dans chaque camp, forcément, tu te mets une limite.
Oui, bien sûr.
Et après, alors pareil, hein, si tu me permets le feedback aussi, pour moi, les gens, ils achètent un programme et ils t'achètent pas, entre guillemets, toi, enfin, que tu y sois ou que tu n'y sois pas, ils peuvent, enfin, c'est pas un frein. Enfin, en tout cas, moi, demain, tu vois, bon, là, mes enfants, ils sont encore trop petits, mais bon, dans un an, mon fils, il aura 12 ans, donc, je pourrais te l'envoyer. Je me dis pas, si Delphine n'est pas là, je l'envoie pas.
Oui, peut-être aujourd'hui, tu vois, je pourrais vraiment commencer à me dire, je monte vraiment l'équipe, c'est l'équipe qui va tout gérer, donc ça sera peut-être l'étape d'après. Mais voilà, mais pour répondre à ta question, c'est un peu le voilà, c'est dans les marges de développement, de progression, c'est de trouver quand même vraiment cet équilibre. Financier.
De quoi t'es la plus fière aujourd'hui?
Je suis fière de cet équilibre aussi, de cet équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, d'être à l'écoute de tout ça, de donner le meilleur, de réussir à, j'espère, voilà, mais de donner le meilleur de moi-même, et de grandir sur ce chemin là que j'ai décidé avec des objectifs de partage, de joie, de voilà, mais qui me vont bien, c'est ce que j'ai choisi. Et donc de réussir à aligner un petit peu tout ça, tant dans ma vie personnelle que professionnelle, c'est ma fierté.
Si tu croises quelqu'un dans la rue là qui te dit « Ah tiens, t'en es là uniquement grâce à de la chance », qu'est-ce que t'as envie de lui répondre ?
Ouais, mais la chance, j'ai été la chercher. Hein. Et la chance, elle existe, heureusement. Mais la chance sans le travail, elle n'existe pas. C'est tous ceux qui réussissent, ils ont beaucoup travaillé. Enfin réussissent, je veux dire dans le côté réussite, reconnaissance ou en tout cas voilà. La chance, j'ai été la chercher. Et il faut la provoquer, il faut aller la chercher. Comme je dis, mais c'est un peu aussi. Alors l'amour, c'est un peu différent, mais souvent je dis, en fait, ça sonne pas à ta porte, quoi. Enfin, c'est rare. Enfin, ça peut exister, mais quelqu'un qui sonne à ta porte. Alors en amour, oui, c'est rare.
Oui, mais il faut lui laisser la porte ouverte.
Mais voilà, mais il faut.
Non, mais tu vois, c'est pareil, hein, tu vois, tu peux te dire, je pense à une amie là qui récemment me dit, ah mais Charles, j'ai trop envie de rencontrer l'amour et tout. Je dis, bah allez viens, on sort, je c'est ma mission de t'aider à rencontrer l'amour et tout. Et là, elle voit un mec en boîte, le mec lui dit, j'ai un coup de foot pour toi et tout. Et je dis, mais vas-y, enfin, elle me dit, ah mais ouais, mais machin. tu me dis que tu veux de la tendresse, il y a un mec qui t'explique qu'il a un coup de foudre pour toi. Vas-y, ouvre la porte. Et puis au pire quoi ? Enfin, au pire, bon bah c'est pas le bon. Et puis bah c'est pas grave. Et puis bah voilà. Et je pense que ça c'est un vrai sujet, c'est qu'en fait, parfois t'as en effet le mec qui arrive en boîte et qui te dit bah j'ai un énorme coup de foudre pour toi, mais en fait si t'es pas prêt et que tu te fais pas violence, parce que bon bah on a tous nos histoires et notre vécu. Si tu te fais pas un petit peu genre en mode bon bah allez ok j'y vais, bah tu peux passer à côté de belles choses.
Ouais, mais la chance c'est ça aussi. Il faut aller la chercher et quand elle arrive, il faut lui ouvrir la porte parce que on peut passer à côté parce que ben voilà, parce qu'on n'est pas assez curieux, parce qu'on n'est pas assez ouvert, parce que
ouais, parce qu'on a trop peur, mais qu'à un moment donné c'est la fameuse première fois, tu vois, se dire ok bah voilà, ce mec là me dit bah sur le papier c'est pas mon style, je dis, bah, première fois vas-y, c'est pas grave.
Ouais.
C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Je sais pas. Je pense que c'est un peu ça. C'est tout ce que j'ai appris dans le développement personnel. Je peux pas dire. Mais vraiment, peut-être que dans tout ce que j'ai appris en développement personnel, il y a vraiment le côté aussi. Arrête de regarder ce que font les autres. Enfin, te compare pas aux autres. En fait, c'est voilà, fais-toi confiance à toi. C'est ton chemin, c'est ton histoire, c'est ton parcours, c'est tes réussites, c'est tes échecs, c'est tes rencontres. Donc voilà. Donc arrête de regarder ce que font les autres. En fait, fais-toi confiance. Enfin voilà, t'es sur la bonne route. Et vas-y, fonce, quoi.
Et c'est quoi le conseil que tu aurais aimé recevoir et que du coup t'aimerais donner aujourd'hui?
Du coup, il y en a plein parce que c'est ce qu'on met, tu vois, c'est un peu tout ça aussi qu'on met dans notre, programme. C'est pas vraiment un conseil, je pense que c'est plus des opportunités où c'est vrai que d'un côté, moi j'ai eu une adolescence, enfin je te dis j'ai été très protégée, donc c'est pas que je suis passée à côté, mais il y a quand même beaucoup de choses que j'ai fait assez tard en fait. Et tu vois, même le fait de découvrir tous ces outils de développement personnel à 40 ans, des fois je me dis mais si j'avais eu tout ça dans les mains à 20 ans, mais j'aurais cartonné. Et non pas pour me dire en fait ce que mais voilà, en fait, je pense que si j'avais compris plus jeune beaucoup de choses, effectivement, la vie elle est courte, elle passe hyper vite. Et c'est vrai que quand même, ça passe tellement vite que le plus tôt t'as des outils, t'as des bons conseils, tu développes tout ça, et ben en fait, tu peux faire encore plus de choses en fait, voilà, parce que t'es armé, parce que c'est plus facile, parce qu'on a quand même beaucoup plus d'énergie entre 20 et 40 que après. Alors après on a une énergie différente. La sagesse c'est pas la même énergie, mais c'est précieux.
On a l'énergie du vécu aussi.
On a l'énergie du vécu. On va plus vite sur plein de choses. On doute moins sur plein de choses donc c'est pas pareil, mais quand même la vie passe très vite. Et moi j'ai de la chance d'être en pleine forme et voilà, et je suis sûre que j'ai encore beaucoup de temps. Tu sais, quand j'ai réfléchi à tout ça, je me suis dit aussi j'ai 25 ans de vie professionnelle. Enfin, j'avais 40 ans. Je dis ouais mais c'est clair, j'ai encore 25 ans à bosser. Hein. Oh, et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on dit aux jeunes 80 000 heures de travail quoi dans une vie, enfin. Donc heureusement vous allez pas faire tout le temps la même chose, heureusement vous allez pouvoir changer, heureusement vous allez faire plein de choses. Là le sujet c'est de démarrer, enfin de commencer votre vie professionnelle par quelque chose que vous aimez, dans lequel vous allez vous éclater, vous allez vous épanouir, vous allez être content d'apprendre, de faire des choses. C'est ça le sujet de l'orientation. C'est pas trouver le métier de tes rêves, de ta vie. On s'en fout.
Bah surtout qu'en plus, accessoirement, il n'existe même pas peut-être aujourd'hui. Hein.
Exactement, il n'existe pas. Ils vont changer. Il y a tout qui change tellement vite, etc. C'est Donc voilà, donc c'est vrai que ça, bah, je l'ai découvert très tard. Mais bon, voilà, c'est, ça n'existait pas.
Il n'est jamais trop tard.
Et puis ça n'existait pas. Je veux dire, c'est pas des sujets, enfin, personne, c'est des sujets qui n'existaient pas. Voilà, c'est l'évolution de la société. On faisait pas, voilà, c'était pas, ça n'existait pas dans nos sociétés, dans nos programmes. Bah, à l'époque, voilà, enfin, toujours quand on dit à l'époque, c'est là qu'on se rend compte qu'on est vieux, mais voilà. Enfin, je veux dire, on allait chez le psy ou sinon, ou c'est tout quoi. Enfin, il n'y avait pas d'autres, il y avait pas d'outils de questionnement.
C'est sûr. C'est quoi tes prochains défis ?
Alors, mes prochains défis. Alors, j'en ai. Alors, à titre professionnel, j'ai un super défi parce que j'ai été contactée par une boîte américaine. Donc, ça serait un petit peu une boucle qui me permet de revenir à mes premières expériences américaines que j'adore. Et j'ai une boîte américaine qui m'a contactée pour créer un programme en France, puisque c'est une boîte qui fait un peu ce que je fais. Donc, ils font des séjours, mais alors, aux États-Unis, dans la culture anglo-saxonne, on parle pas d'orientation, en fait. C'est pas un sujet. Eux, ils parlent de, bah, justement, de leadership, d'épanouissement, de développement de l'ado. Et après, bah, ce qu'il fera, ça arrivera, etc. Donc, ils font des programmes un petit peu à impact. Et ils m'ont contacté pour créer leur programme France.
Génial!
Donc c'est mon prochain défi. Je suis en train de travailler dessus et donc je vais adapter. Enfin voilà, je crée un contenu pour des ados américains qui vont venir découvrir la France, mais sous un angle Columbus quoi. Enfin sous l'angle un petit peu coulisses, professionnel, ce qu'on appelle un peu le learning by doing, le experience. Voilà, c'est donc voilà, donc c'est une création de programme pour des ados américains. Et du coup, je pense que ça va être un défi, mais qui est logique dans mon parcours, dans ce que j'ai envie de faire. Et puis qui peut être vraiment un tremplin pour moi pour relancer, enfin en tout cas pour donner une orientation internationale à Columbus, parce que je pense que c'est mon
la boucle.
Ouais, bah c'est moi en fait, tu vois, ça rejoint mon passeport, ça rejoint mon plaisir, ce multiculturel, puisque j'ai envie de transmettre aussi, de pouvoir créer aussi des opportunités pour des jeunes Français, tu vois, de vivre des programmes comme ça. Bon, je dis pas que c'est la fin du séjour linguistique, mais je pense que vraiment dans le contenu éducatif qu'on apporte à nos ados, notamment, on peut aller tellement, tellement plus loin. Donc, ce que j'essaie de faire moi avec Columbus, c'est de dire, bah voilà, on peut créer des nouveaux séjours pour les ados avec un contenu éducatif qui va beaucoup plus loin que le simple entre guillemets loisir sportif et culturel, même si c'est très bien, mais voilà, on peut quand même aller beaucoup plus loin. Et dans le côté linguistique, bah c'est pareil. Il y a beaucoup de choses à inventer et voilà. Et c'est le prochain défi.
Trop bien. Est-ce que tu as un conseil de lecture à partager avec nous ?
Alors, en lecture, j'offre juste un exemple, mais qui est plus une lecture pour les ados. Je leur offre, et en général, on essaie de le faire dédicacer parce qu'elle vient, nous rencontrer quand elle peut. Le livre de Victoria Guillaumont, qui est une jeune fille engagée, qui a écrit tout ce qu'on n'apprend pas à l'école. Et voilà, et c'est son premier livre, et c'est un beau témoignage. Elle y met toute son, elle y met son parcours, ses conseils. Maintenant, elle fait aussi des, elle fait des conférences. Elle est, voilà, elle est hyper engagée et elle porte un super message, je pense, pour les jeunes, parce que de toute façon aussi, elle est jeune. Et voilà, c'est un livre entre guillemets qui est facile à lire, et tous les jeunes à qui on l'a offert. Ils le dévorent et ils prennent ce qu'ils veulent et ils en font ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, ça complète les messages que qu'on peut faire passer pendant nos camps. Ils le gardent chez eux.
Génial. Ouais, elle a son podcast qui s'appelle Nouvel Œil.
Oui, elle a un podcast aussi qui est très sympa. Ouais, ouais, qui lui a permis de voilà, elle a inventé son métier, sa vie c'est une chouette fille que j'aime beaucoup, qui est de Bordeaux, enfin qui est de notre région aussi, avec des parents agriculteurs. Enfin voilà, elle a un parcours un peu atypique et en tout cas, c'est chouette de partager, partager cette expérience avec les jeunes qu'on accompagne.
Top. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte?
Oh, des merci. Bah, merci à toi, tu vois, Charlotte, pour ce moment. Bah,
oh, avec plaisir.
Oh, moi, je dis merci. Je dis merci tous les jours, tout le temps. Bien sûr, merci à mes parents pour justement cet ancrage, hein, ces fondations, et sans le savoir finalement, parce qu'ils l'ont fait avec leur cœur et voilà. Mais c'est essentiel. Merci à mon mari, parce que vraiment j'ai un mari, j'ai beaucoup de chance, on se complète bien, on est un vrai couple, on est un vrai puzzle en fait, on est complètement différents, voilà, on continue à maintenir ce puzzle et à faire que ça fonctionne. Et un grand merci, parce que c'est mon meilleur coach quand même, hein, voilà. Et puis merci à mes amis aussi qui m'apportent cette joie, qui sont toujours là, etc. Merci à tous les gens qui m'entourent, qui croient en moi. Merci à la vie de m'offrir tout ça. Moi je suis j'ai beaucoup de chance, et de toute façon, quelle que soit la vie qu'on a, chaque vie, c'est ce qu'on essaie de dire aussi, finalement chaque vie est réussie. Chaque vie est réussie, parce que de toute façon, on n'en a qu'une. Hein. Donc, on peut pas passer à côté. Et si on change notre regard par rapport à la vie qu'on a, elle est forcément réussie, parce que de toute façon, on n'en a pas d'autre. Et une fois qu'on comprend ça, et de toute façon, elle ne peut que être meilleure, parce que c'est nous qui mettons ce qu'on veut y mettre. Donc, si on veut y mettre de la joie, du bonheur, de la fête, de la culture. Enfin, on y met ce qu'on veut y mettre.
Mais on est responsable de notre bonheur.
Exactement, on est responsable de notre bonheur. Et donc, et merci à tous ces, justement aussi, hein, à tous ces coachs et à tous ces messages inspirants que je prends toujours beaucoup de plaisir à écouter. Tu vois, là, j'ai refait une mini formation, parce que je fais partie d'un nouveau groupe autour de la famille, parce que la famille, pour moi, c'est hyper important. Donc, j'ai rejoint un groupe. Et à l'occasion de la création de ce groupe, elles nous ont refait une mini formation estime de soi en 2 jours. Ça m'a replongée dans le sujet. Oh, je dis, tu vois, ça fait toujours du bien. Une piqûre de rappel sur l'estime de soi et sur la beauté de la vie, tout simplement.
Ouais. C'est sûr. Ouais, parce que de toute façon, derrière les nuages, il y a le soleil, et dans la nuit, il y a le soleil, et il est toujours là, et il faut pas l'oublier. Parce qu'il réapparaît toujours. Pour les personnes qui veulent en savoir plus sur ton entreprise, du coup, moi, je mettrai tous les liens sur le site pourquoipasmoi.co. Est-ce que tu peux juste nous dire peut-être le nom du site, comme ça, pour
oui,
ceux
bien
qui...
Bien sûr. Alors, c'est les programmes Columbus, et le site, c'est Columbus avec un O, hein, Columbus, tiré du 6, camp.com. Ça, c'est le site pour les séjours, les camps qui ont lieu donc tous les 2 mois, à chaque vacances scolaires. Le prochain, c'est en février. Et on a plusieurs formats. On a un format City, qui est dans Bordeaux, qui permet aussi aux jeunes ruraux de venir en ville. On fait tout à pied, en tram, en bus, en vélo, etc. C'est hyper sympa. Et on va voir aussi des écoles. On va voir des écoles de l'enseignement supérieur. On va voir des entreprises, des entrepreneurs. Enfin, voilà, c'est assez global. On a un format nature, qui est du côté de Bazas ou des Landes, où là, pour le coup, c'est l'inverse. On est en pleine nature, on dort dehors, logement insolite, et on est vraiment sur l'agroalimentaire, la connexion à la nature. Et on a un format vraiment été. Le summer camp, il est à Arcachon, à 300 mètres de la plage. Et là, on est en mode plus été. Et on se motive avant de retourner en cours. On profite de la dernière semaine. C'est toujours la dernière semaine d'août, parce que c'est la semaine où, en fait, on les remet dans le bain de la motivation pour retourner en cours. Et Dieu sait que voilà, il en faut de la motivation pour retourner au collège et au lycée. Donc on les rebooste un peu avant d'y retourner. Et j'aurai un deuxième site qui va sortir, qui sera la page vraiment Columbus, puisque en plus des camps, j'ai développé maintenant une offre sur mesure qui me permet donc là de travailler sur le projet avec les États-Unis. Qui met à disposition un petit peu tout ce contenu pour des professionnels de l'éducation, de la jeunesse. Génial. qui voudraient créer des nouveaux contenus, peut-être adapter les programmes que j'ai créés, mais avec leur public. Donc je fais du sur-mesure pour des professionnels de l'éducation et de la jeunesse.
Génial. Merci beaucoup, Delphine.
Merci à toi, Charlotte. Et bravo aussi pour tout ce que tu fais. Et...
Merci.
Et à bientôt.
À très vite, j'espère. Je vais venir à Bordeaux. J'ai plein d'invités du podcast à venir rencontrer en vrai à Bordeaux, donc avec grand plaisir.
On s'organise un dîner avec tous tes invités bordelais ou de la région.
Carrément.
Et ce sera chouette. Hein.
Avec grand plaisir.
Merci.
J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain dans la newsletter de Pourquoi pas moi. Et en attendant, si le podcast vous plaît, soutenez-le en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée. À la semaine prochaine !